Docteur Ted Hildebran, les proverbes sont différents du reste du Tanakh. Copyright 2024 Ted Hildebran. Il s'agit du docteur Ted Hildebran qui fait une présentation sur les proverbes, abordant la question suivante, en quoi les proverbes sont-ils différents ou uniques du reste du Tanakh? Bienvenue à une présentation du livre des proverbes. Qu'est-ce qui est unique dans le livre des proverbes? Le titre de cette présentation est Proverbes. En quoi est-il différent ou unique d'une grande partie du reste du Tanakh? Quand je dis Tanakh, je veux dire ce que certains appellent l'Ancien Testament où Tanakh représente la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, de la Genèse au Deutéronome, les Neviim, qui sont les prophètes, et les Ketuvim, qui sont les écrits. Et cela résume ces trois sections, Tanakh, Torah, prophètes et écrits, résume l'Ancien Testament et ou le Premier Testament, quelle que soit la façon dont vous voulez désigner cela. Pour commencer, nous devons comprendre l'importance du genre littéraire, de la classe littéraire et comment cela affecte la façon dont vous lisez les choses. Donc, par exemple, si vous prenez un journal, par exemple, si certaines personnes se souviennent encore de ce qu'est un journal, vous avez une première page et certains articles seront mis en première page du journal. Vous avez également intégré dans le journal une page d'opinion. Et c'est différent lorsque les gens donnent leur avis sur des sujets différents de ceux de la une, même si ces derniers temps, ils sont parfois confus. Vous avez des faire-part de mariage. Et donc, lorsque vous allez dans la section des annonces de mariage, vous vous attendez à ce que les gens annoncent leur mariage et des choses comme ça. Vous avez une section nécrologique, vous ne voulez pas confondre ces deux-là. Et si vous consultez la section nécrologique, vous découvrirez qui est décédé récemment. Vous avez également la section dessins animés, que j'appréciais quand j'étais plus jeune. Et vous avez également des petites annonces, où les gens font de la publicité pour essayer d'acheter et de vendre des choses dans la section des petites annonces. Donc, dans le journal, il faut savoir où on en est quant à la manière dont on interprète chaque article d'une manière différente. Dans les livres, on retrouve le même genre de choses. Vous avez des livres de science-fiction, et les livres de science-fiction sont différents des biographies. Et vous avez des livres comme ceux-là qui sont des mystères, vous avez des fictions historiques, vous avez des livres d'anthologie de poèmes. Et ces livres sont des fables, des livres de fables de mythologie dans diverses cultures. Vous avez des manuels, et un manuel doit être interprété différemment de la mythologie. Livres de cuisine, certaines personnes auront des livres de cuisine. Et lorsque vous lisez un livre de cuisine, vous vous attendez à quelque chose de différent que si vous lisez une biographie. Vous avez un atlas, et un atlas présente certaines informations. Aujourd'hui, nous allons simplement sur Google Maps, mais Atlas présente ainsi certaines informations géographiques, certaines informations météorologiques et diverses choses. Dictionnaire, un dictionnaire est différent d'un thésaurus. Un dictionnaire vous indique la signification d'un mot. Un thésaurus vous dira qu'il y a 25 synonymes et 10 antonymes qui sont à l'opposé de ce que vous recherchez. Ainsi, un thésaurus est différent d'un dictionnaire, et vous y accédez à des fins différentes. Une encyclopédie ou un wiki, par exemple. Vous accédez à une encyclopédie pour obtenir un article sur un sujet spécifique. Ainsi, selon le genre, vos attentes apparaissent, ainsi que la manière dont vous interpréterez les informations que vous obtenez. Maintenant, c'est vraiment frustrant lorsque vous arrivez sur le web et que vous pensez cliquer sur quelque chose qui vous amène à une actualité, et il s'avère qu'il s'agit en réalité d'une publicité sponsorisée. Donc, vous apprenez très vite quand il est question de publicité sponsorisée, c'est quelqu'un qui pousse quelque chose, et c'est différent d'un article sur le sujet. Il semble vous recommander de l'aborder en fonction des informations qu'il va vous fournir, mais ce n'est en réalité qu'une publicité. C'est donc ainsi qu'ils obtiennent leur clic ou leur plaisir. Ainsi, le genre ou la classe littéraire d'information affecte alors vos attentes lorsque vous l'ouvrez et lorsque vous le lisez. Qu'en attendez-vous? Et c'est aussi la façon dont vous interprétez. Comment interprétez-vous le texte et ses significations? Image. Si vous allez à Babylon B et qu'ils disent quelque chose de plutôt ironique ou sarcastique, vous devez savoir que c'est ironique ou sarcastique. Parce que si vous le prenez au sens littéral, vous avez totalement raté le sujet. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de ces choses qui tentent d'être ironiques ou sarcastiques. Et nous ne semblons plus tolérer cela, car les choses sont désormais très sérieuses et ne sont plus ludiques, sarcastiques ou ironiques. Il faut donc connaître le type de littérature auquel on a affaire. La question initiale avec laquelle nous travaillons est la suivante, les proverbes, comme le reste de l'Ancien Testament ou le Tanakh, doivent-ils être lus comme une histoire de l'histoire rédemptrice de Dieu? Et une grande partie de l'Ancien Testament est l'histoire de la rédemption de Dieu. Les proverbes correspondent-ils à ce moule? En quoi un proverbe est-il différent d'une prophétie ou d'un récit historique? En quoi un proverbe est-il différent? C'est l'objectif ici. Ainsi, notre thèse est que les proverbes ne sont pas la même chose que la Torah, les livres historiques, les livres prophétiques ou les psaumes. C'est différent. Cette présentation explique ce qu'un proverbe n'est pas, montrant en quoi il est différent ou unique. Plus tard, nous aborderons la question de savoir ce qu'est un proverbe. Voilà ce qui n'est pas un proverbe, nous aurons une présentation différente. Voyons ce qu'est un proverbe. Quelle forme utilise-t-il pour communiquer? Et quels mots sont caractéristiques de la littérature proverbiale et doivent être compris dans ce contexte de sagesse ou proverbiale, par opposition à ces mêmes mots et à la manière dont ils sont interprétés, par exemple, dans un livre historique ou dans la Torah? Comment lire un proverbe? Comment un proverbe se connecte-t-il après avoir montré en quoi il est différent des autres sections du Tanakh? Ensuite, nous reviendrons sur tout le chemin et disons, d'accord, comment les proverbes se connectent-ils intertextuellement avec le reste du Tanakh, en particulier la Torah, en particulier le livre du Deutéronome. Donc, fondamentalement, ce que nous allons faire, c'est montrer en quoi c'est différent. Et puis nous reviendrons et montrerons comment cela s'intègre dans une présentation ultérieure. Mais d'abord, nous devons reconnaître, et c'est un gros problème pour beaucoup de gens aujourd'hui, à quel point les proverbes sont différents. Ils veulent dire que tout est pareil. Nous disons, non, ce n'est pas pareil. Et donc, je vais développer 13 idées, et je ferai un aperçu de ces idées. Et puis nous les passerons en revue. Et au fur et à mesure que nous progressons, cela va prendre un certain temps, nous allons en quelque sorte examiner l'Ancien Testament, chacune de ces 13 idées et montrer en quoi elles ne sont pas ou différentes ou reflétées différemment dans les proverbes. Ainsi, par exemple, les proverbes sont différents. Il n'y a pas de noms personnels omniprésents dans le reste de l'Ancien Testament, mais à l'intérieur de la collection proverbiale, six noms sont utilisés, et ceux-ci sont généralement tous dans les titres. Et donc ceux-ci se trouvent au chapitre 1, verset 1, chapitre 10, verset 1, chapitre 25, verset 1. Ces noms personnels sont limités uniquement à ces titres et ne se trouvent pas ailleurs. Alors que dans de nombreux livres, les noms de personnes se retrouvent partout. Et nous allons étudier cela. Aucune tribu ou nation n'est mentionnée, ni aucun groupe tribal. Et donc, ce que nous trouverons dans beaucoup d'autres livres, ce sont les Moabites, les Ammonites, les Édomites et tous ces groupes tribaux. Et dans les Proverbes, les Philistins ne mentionnent jamais ces groupes tribaux ou ces nations nationales différentes. Israël était entouré de ces deux-là, qu'ils appellent des félins. Vous avez la Mésopotamie, Babylone, la Syrie et l'Égypte au sud. Et Israël est la terre intermédiaire, comme Jim Monson et d'autres l'ont désigné à juste titre. Mais l'Égypte, Babylone et la Syrie ne sont pas mentionnés. Cependant, je dois corriger que l'Égypte est mentionnée en mentionnant les draps égyptiens en 7h16, car il parle des séductions de Madame Folly et de la façon dont elle essaie de séduire le jeune homme avec ses draps égyptiens. Cela ressemble un peu à autre chose. Nous y reviendrons. Mais de toute façon, aucun groupe tribal ou groupe national n'est mentionné et ainsi de suite. Ville et lieu. Dans une grande partie de l'Ancien Testament, vous avez des villes sur des villes, vous avez des régions mentionnées. Et dans le livre des Proverbes, il n'y a rien au fond, très peu de ce genre de villes ou de lieux mentionnés qui sont omniprésents dans le reste de l'Ancien Testament, mais pas dans le Proverbe 0. Les proverbes sont différents. Il n'y a pas d'appel d'un individu en particulier. Et ces appels sont répandus dans l'Ancien Testament où les individus sont appelés, l'appel ne se trouve pas du tout dans le livre des Proverbes. Personne n'est appelé ni sa vocation précisée. Les proverbes sont différents. Numéro 5, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de tabernacle. Il n'y a pas de maison du Seigneur dans les proverbes, ce qui est assez drôle parce que les proverbes parlent de Salomon et que Salomon est mentionné dans trois de ces titres auxquels nous venons de faire référence. La plus grande réalisation de Salomon est la construction du temple. Ce n'est même pas mentionné. Zéro temple, maison du Seigneur, ou tabernacle, ce n'est même pas mentionné. Les proverbes sont différents. Aucune institution comme la prêtrise n'est mentionnée. Les prêtres sont partout dans l'Ancien Testament. Les prophètes ne sont pas mentionnés. Prophètes, mes serviteurs, les prophètes sont mentionnés partout dans l'Ancien Testament. Ils n'y sont pas mentionnés. Aucun juge comme Samson, Gédéon ou Jephté n'est mentionné. Les proverbes sont différents. Maintenant, il y a des rois. Il y a des rois mentionnés et vous dites, eh bien, Les rois sont, nous le savons, David, Salomon, Saul, le Royaume-Uni, Jéroboam, Achab, etc., Ézéchia. Les rois ne sont pas mentionnés, mais dans une grande partie du livre de l'Ancien Testament, les rois sont nommés Abimélec, Adonaï-Bezek, divers rois sont mentionnés. Dans le livre des Proverbes, les rois ne sont pas vraiment mentionnés autrement que dans les titres. Le livre parle cependant des rois, mais il parle de leur comportement et de ce que devrait être votre comportement devant les rois, sans énumérer le roi et en disant « ce roi a fait cela ». Non, cela dit comment vous devez traiter avec les rois et comment les rois doivent gérer leurs propres problèmes et ce genre de choses. Ainsi, même chez les rois, les prêtres et les prophètes ne sont même pas mentionnés, et les juges nommés ne le sont pas non plus. Numéro 7, il n'y a pas de « ainsi dit l'Éternel » « Kolamar Yahweh ». Non, ainsi parle le Seigneur. Il n'y a pas de rêve divin où Dieu communique à son peuple par des rêves ou des visions. Ces rêves se retrouvent ailleurs, parsemés dans tout l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur, encore une fois, répandu en particulier dans les prophètes et à d'autres endroits de l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur. Les proverbes ne contiennent pas cela. Numéro 8, il n'y a pas de théophanie où se trouve la théophanie lorsque Dieu apparaît sous une forme ou une christophanie, ou quelle que soit la manière dont vous voulez comprendre cela. Pas d'ange ni d'ange du Seigneur. Il n'y a donc ni théophanie, ni ange du Seigneur, ni miracle, ni miracle. Et ces choses sont répandues dans tout l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de la sortie d'Égypte et de diverses choses et des miracles que Dieu a accomplis dans l'Ancien Testament. Les miracles ne sont pas mentionnés dans le livre des Proverbes. En voici un autre. Numéro 9, les fêtes. Les fêtes d'Israël, diverses fêtes du printemps et de l'automne, ne sont pas mentionnées. Le sabbat, une question majeure ici, le sabbat, n'est pas mentionné dans le livre des Proverbes. Pèlerinage, où l'on monte, psaume de l'Ascension, où l'on monte à Jérusalem, non mentionné. L'année du jubilé, l'année sabbatique, n'est pas mentionnée. Il n'y a pas de réunion de congrégation, de jeûne ou de procession mentionnée dans le livre des Proverbes. Les proverbes sont différents. Il n'y a pas d'alliance mentionnée explicitement, les relations humaines et divines sont spécifiées par une alliance. Et nous avons en grande partie, au cours de cette période, l'alliance abrahamique. Nous avons l'alliance sinaïtique avec Moïse, puis l'alliance davidique et enfin la nouvelle alliance. Les seuls qui apparaissent sont l'alliance sinaïtique, où la loi est peut-être liée au Deutéronome et à d'autres choses, mais l'alliance abrahamique n'est pas mentionnée. L'alliance davidique, même si elle concerne les rois et la formation des rois, n'est pas mentionnée. Et la nouvelle alliance n'est pas du tout mentionnée. Et l'un des grands thèmes de l'alliance et des thèmes de l'Ancien Testament est la terre promise. La terre et la division de la terre entre les tribus sont un thème majeur de l'Écriture, qui n'est pas mentionné dans les proverbes. Les proverbes sont donc différents. Idolâtrie. L'idolâtrie et la lutte contre l'idolâtrie sont omniprésentes dans l'Ancien Testament. Cela commence dans la Genèse, « Mange ce fruit, tu seras comme Dieu ». Cela va jusqu'à la fin du livre. Il existe une condamnation omniprésente de l'idolâtrie. Et nous verrons beaucoup de ces références. L'idolâtrie, que vous pensez être un péché majeur, n'est pas mentionné dans le livre des Proverbes. C'est le numéro 11, pas d'idolâtrie. Cela se démarque vraiment du reste des Écritures de l'Ancien Testament. Les Proverbes sont différents. Il n'y a pas d'histoire. Pensez à la singularité de l'histoire. Et ainsi, Abraham part d'Ur des Chaldéens en Palestine et il descend à Beersheba puis il ment à Abimélec. C'est ma sœur et ensuite il descend en Égypte. C'est encore ma sœur. Et puis il revient, il achète une place pour Sarah enterrée dans la grotte de Macpéla. Et donc, il y a une histoire dans laquelle Abraham est présenté. Il traverse, il a divers problèmes dans sa vie. Il résout ses problèmes. Et puis cette histoire se termine. Abraham meurt et ses fils l'enterrent dans une grotte près de Mamré. Cette connexion entre un format d'histoire, un début, une fin et un milieu, ne se produit pas dans les proverbes. Les proverbes sont des phrases et constituent un processus dans lequel, un fils sage apporte de la joie à son père, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Cela s'applique à de nombreuses situations. Il ne s'agit pas seulement d'une situation qui vous parle d'une personne particulière dans un endroit particulier à un moment particulier et de ce qu'elle a fait, A, B, C, D, et de ce que Dieu a fait dans le processus pour amener cette personne ou cette nation à lui. Non, les proverbes sont très courts et très, comment dire, plutôt que singuliers. En d'autres termes, cela est arrivé à Abraham une fois et il est allé une fois durant Chaldée en Palestine, une fois en Israël. Non, dans les Proverbes, un fils sage apporte de la joie à son père, cela arrive 1 million de fois par an, chaque année. Et donc, c'est juste très différent. Les Proverbes n'ont pas la singularité que l'on trouve dans un genre de récit historique. Les récits ou récits historiques sont regroupés autour de paragraphes et de péricopes, récits. Donc, vous avez une histoire composée d'un paragraphe sur cette personne racontant l'histoire de la vie d'une personne ou comment Dieu a interagi avec cette personne. C'est une histoire construite essentiellement sur des paragraphes. Les proverbes sont plus phrases. En d'autres termes, c'est une phrase courte et c'est tout. Je veux dire, c'est une phrase courte et puis vous continuez et ensuite vous passez à la phrase suivante, puis à la phrase suivante et à la phrase suivante. Donc, dans un certain sens, c'est plus instable et nous devrons également aborder cela dans une autre conférence. Je pense que certaines de ces choses sont liées, que les phrases courtes sont liées, mais c'est plutôt sophistiqué et nous devrons y revenir plus tard. Quoi qu'il en soit, les psaumes, en passant, sont construits sur des poèmes et ces poèmes sont ensuite généralement divisés en strophes, plusieurs versets qui s'accrochent ensemble et qui ressemblent presque à des paragraphes poétiques, mais ce sont plusieurs versets. Proverbe, vous obtenez une phrase, c'est tout. Ainsi, les proverbes sont différents. Voilà donc les 13 choses que nous voulons aborder. Et maintenant, passons au premier, les noms personnels. Les noms personnels sont omniprésents dans le reste du Tanakh, mais en dehors de la collection proverbiale, ils se limitent uniquement au titre. Et donc, permettez-moi d'en lire quelques-uns. Les proverbes sont différents. Bien que les noms de personnes se trouvent tout au long de l'Ancien Testament dans les proverbes, ils ne sont répertoriés que dans les titres. Ainsi, par exemple, permettez-moi de regarder certains de ces titres. Proverbe 1:1 introduit le livre et voici ce qu'il dit. Les proverbes de Salomon, nom personnel, fils de David, nom personnel, roi d'Israël. Donc, nous avons ici deux noms personnels, Salomon et David, mais cela est répertorié dans Proverbe 1:1 comme titre, puis cela apparaît et cela continue dans le chapitre vous parlant de l'enseignement de la sagesse. Le chapitre 10:1 est l'introduction de la phrase. Ainsi, le chapitre 1:1 présente les instructions. Les proverbes 1:9 contiennent ces longues instructions sur la sagesse, Madame la sagesse, Madame la sagesse parle, Madame la folie parle, et ils se disputent le jeune homme pour voir s'il sera sage ou s'il sera insensé. Après ces longues instructions, puis au chapitre 10:1, nous abordons les proverbes phrasenels, les proverbes proprement dits, si vous préférez. Et dans Proverbe 10:1 commence à nouveau par ce titre, les proverbes de Salomon. C'est tout. Proverbe de Salomon. Et boum, 10:1 commence une autre section de 10:1 essentiellement à 25 ou en fait 22 autres, quelle que soit la manière dont vous souhaitez diviser cela. Au chapitre 25:1, vous cliquez sur une autre section de titre majeur et il est dit ceci, ce sont encore d'autres proverbes de Salomon. Remarquez le nom personnel, compilé par les hommes d'Ézéchia, un autre nom personnel, roi d'Israël. Alors maintenant, Ézéchia rassemble les proverbes et édite les proverbes que Salomon y avait donnés. Et il ajoute essentiellement les chapitres 25 à 29. Ce sont les hommes d'Ézéchia qui les ont retirés de la collection salomonienne. Ainsi, le nom de Salomon et le nom d'Ézéchia sont mentionnés, mais encore une fois, seulement dans le titre, après le titre, il n'y a aucune mention de nom personnel. Au chapitre 30:1, nous trouvons ce type, les paroles d'Agur, fils de Jachel, un oracle, ou une déclaration inspirée. Voilà donc Agur, on ne sait pas vraiment qui il est, un fils de Jachel, un oracle. Et voici donc deux autres noms. Ce sont des noms inconnus, Agur et Jachel. Puis au chapitre 31, c'est donc le chapitre 30. Et puis au chapitre 31, nous obtenons ceci à propos du roi Lemuel. Il y a toutes sortes de conjectures sur qui est ce roi Lemuel. Il n'y a pas de roi d'Israël nommé roi Lemuel. Ainsi, certaines personnes pensent que cela fait référence à Salomon. Il y a donc de grands débats à ce sujet. Je ne veux pas entrer dans cela. Les paroles du roi Lemuel, une parole inspirée que sa mère lui a enseignée. Et puis c'est le premier verset du chapitre 31, le verset 10 et les suivants du chapitre 31 parlent de la femme vertueuse. Tout le monde reconnaît habituellement, Proverbe 31, la femme vertueuse ou la VW. Mais il continue, ce n'est pas au roi, dit la mère à son fils, ce n'est pas au roi, au Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin ni au dirigeant de prendre des boissons fortes. Proverbe 31:4. Ainsi, la mère appelle alors son fils Lemuel. Ce n'est pas pour un roi, au Lemuel, son fils. Donc voilà, vous obtenez le nom de Lemuel dans le texte, pas dans un titre. Nous avons eu Agur, nous avons eu Jakel, Salomon, David, Ézéchia, tous dans les sections de titres. Et le reste de cette section qui s'étend sur 10, 15 chapitres, ou 5 chapitres, 4 chapitres, il n'y a aucune mention de nom personnel, zéro. Il est donc très intéressant que les noms de personnes soient vraiment limités à ces titres dans ces documents. Les proverbes comptent 31 chapitres et environ 915 versets. Donc, il y a beaucoup de versets, 915 versets. C'est le 11e long livre du Tanakh. Ainsi, il y a beaucoup de 31 chapitres et pourtant aucun nom sauf dans ces titres, sauf Lemuel, Proverbe 31, 4. D'autres livres sont remplis de titres et nous allons simplement parcourir et faire une sorte d'aperçu de l'Ancien Testament. Ce sera amusant de réfléchir simplement sur l'Ancien Testament. En ce qui concerne les noms de personnes, il n'y a dans les proverbes aucun caractère primitif. Des gens comme Adam et Ève en ont entendu parler ? Adam et Ève ne sont pas mentionnés. Caïn et Abel ne sont pas mentionnés. Noah n'a pas été mentionné. N'importe lequel des personnages primitifs, non mentionnés dans les proverbes. Les patriarches, il n'y a pas de patriarches. Pas d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Aucun Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ne sont mentionnés. Ce sont des personnages majeurs de l'Ancien Testament ou du Tanakh. Ils ne sont pas du tout dans le livre des Proverbes, zéro. Pas de dirigeants israélites comme Moïse. Moïse, un grand nom n'est jamais mentionné. Aaron, le premier sacrificateur avec Moïse et tout, alors qu'il sortait d'Égypte. Aaron, n'est pas mentionné. Josué correspondait à la bataille de Jéricho. Josué n'est pas mentionné. Samson, vous savez, tout le monde a entendu parler de Samson, Delila n'est pas mentionné du tout. Samuel, n'est pas mentionné. Saul n'est pas mentionné. Jonathan, n'est pas mentionné. Jéroboam n'est pas mentionné. Achab n'est pas mentionné. Ce sont les principaux rois d'Israël. Aucun dirigeant israélite n'est donc mentionné. Pas d'opposants israélites. Aujourd'hui, les opposants sont mentionnés assez fréquemment. Ce type nommé Ogé et Sion. Ainsi, Ogé et Sion ne sont pas mentionnés. Balaam, mauvais prophète raté des nombres 22 à 24, n'est pas mentionné. Balaam n'est pas mentionné. Goliath, adversaire majeur d'Israël, David et Goliath n'est pas mentionné. Nous utilisons encore cette histoire encore aujourd'hui. Une personne qui combat une grande entreprise, on dit que c'est David contre Goliath. Goliath, n'est pas mentionné. Sambala, Nabucodonosor, etc. Aucun de ces opposants à Israël qui sont des personnages majeurs n'est cité, pourtant on ne les retrouve pas du tout dans les proverbes. Aucun prophète israélite n'est nommé. Il n'y a ni Jérémie, ni Isaïe, ni Daniel, ni Jonas, ni Osée, ni Michée. Ces personnes ne sont pas mentionnées. Les principaux prophètes d'Israël n'en font même pas mention. Aucune femme n'est nommée. Ève n'est pas nommée. Sarah n'est pas nommée. Rachel, Léa, Rebecca, Ruth, Delila ou Gomé ne sont pas nommés. Traiter avec les rois et comment les rois doivent gérer leurs propres problèmes et ce genre de choses. Ainsi, même chez les rois, les prêtres et les prophètes ne sont même pas mentionnés, et les juges nommés ne le sont pas non plus. Je veux dire, beaucoup de ces femmes dans l'Ancien Testament sont nommées, mais pas un mot dans le livre des Proverbes. Pas de rois étrangers. Melchizedek, célèbre dans l'Ancien Testament, Genèse 14, n'est pas mentionné. Abimélec, encore une fois, n'est pas mentionné. Ogé, n'est pas mentionné. Sennachérib n'est pas mentionné. Achish, le roi de Gath, n'est pas du tout mentionné. Ce sont donc des noms majeurs qui ne sont tout simplement pas répertoriés. Des prêtres aussi, des prêtres sont nommés. Aaron est nommé. Élisère est nommé. Abiathar, avec David, est nommé. Ahimelech est nommé. Esdra, plus tard, est nommé prêtre. Aucun d'entre eux n'est nommé dans les proverbes. Le livre des proverbes n'a pas de généalogie. Maintenant, vous connaissez les généalogies, quand je pense aux généalogies, vous pensez à Genèse 5, Genèse 11 et ce genre de choses. Ruth 4, une chronique, les premiers chapitres contiennent des généalogies solides. Il y a donc des généalogies partout dans les Écritures, même si vous pensez à Matthieu 1 et à la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1 ou plus dans Luc, mais pas de généalogie dans les proverbes. Les généalogies regorgent de noms de personnes, mais aucun d'entre eux ne figure dans le livre des Proverbes. Eh bien, écoutez, brièvement, prenons le livre de Ruth. C'est court, concis, et parcourons simplement le livre de Ruth, en choisissant les noms personnels et comment ils apparaissent. Remarquez maintenant comment ils se produisent naturellement dans l'histoire. Les Proverbes, encore une fois, uniquement dans les titres, jamais dans les parties suivantes des Proverbes. Ainsi, Ruth 1, 5 dit ceci, « Au jour où les juges régnaient, il y avait une famine dans le pays. Ainsi, un homme de Bethléem en Juda, avec sa femme et ses deux fils, partit vivre quelque temps dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Le nom de sa femme était Naomi. Alors maintenant, vous avez Élimélec et sa femme, Naomi, et les noms de leurs deux fils, Mahlon et Chilion. Ainsi, ils nomment les deux fils, le père et la mère, et ils étaient des Éphratiens de Bethléem, Juda. Et ils allèrent vivre à Moab et y habitèrent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites nommées Orpa, un autre nom, et l'autre épousa Ruth. Et après avoir vécu 10 ans, Mahlon et Chilion, qui moururent également, ainsi que Naomi, un autre nom personnel, se retrouvèrent sans ses deux fils et son mari. C'est dans les 5 premiers versets du livre, mais cela s'installe. Vous avez Élimélec marié à Naomi. Elle a 2 fils, Mahlon et Chilion. Ils épousent Orpa et Ruth. Et donc vous avez 6 personnages répertoriés. Et puis, au fur et à mesure que vous parcourez le récit du chapitre 3, un autre personnage est introduit. Un jour, la belle-mère de Ruth, Naomi, lui dit, « Ma fille, je dois te trouver un foyer où tu seras bien pourvue. Maintenant, Boaz, avec les femmes de qui tu as travaillé aujourd'hui, est notre parent. » Vous avez donc ici un autre personnage, Boaz. Bien sûr, il sera le héros de l'histoire. Et fondamentalement, Boaz est présenté. Et donc, vous avez des noms personnels qui traversent tout cela ainsi qu'une généalogie à la fin du livre de Ruth. Vous avez une généalogie, pas longue, mais elle dit, voici donc la famille de Pérez. Pérez était le père de Hetzron. Hetzron était le père de Ram, etc., etc. Permettez-moi de descendre. Salmon, le père de Boaz. Donc, cela nous dit que cette généalogie passe par Boaz. Mais alors qu'est-ce qui est vraiment intéressant, où ça va de Boaz? Où est-ce que ça va? Boaz était le père d'Obed. Obed était le père de Jessé. Et Jessé était le père de David. Donc, le père de David était Jessé. Vous connaissez probablement des histoires à son sujet. Et puis Obed était le grand-père de David, et son arrière-grand-père était Boaz. Et donc, cette généalogie se concentre ensuite sur David, les généalogies et la fin des choses, énumérant tous ses noms personnels tout au long. Les proverbes n'en ont rien. Donc différent. C'est intéressant. Lorsque vous regardez Jérémie 15, 1, Dieu évoque 2 noms. Jérémie écrit, vous savez, 6 ans, 587 ou 6 avant J.C. Ces gens viennent d'au moins 4 ou 500 ans plus tôt. Et puis le Seigneur m'a dit, même si Moïse et Samuel étaient là pour se tenir devant moi, c'est Jérémie 15. Ainsi, Jérémie écrit des centaines d'années plus tard, des centaines et des centaines d'années plus tard. Et il dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon cœur ne s'ouvrirait pas vers ce peuple. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Même si Moïse et Samuel avaient intercédé pour leur peuple, même s'ils intercédaient pour ce peuple, Jérémie, dont vous avez affaire des centaines d'années plus tard, juste avant la captivité babylonienne, je ne les écouterai pas. D'accord. Très intéressant. Il évoque ces 2 noms personnels dans Jérémie 15. En voici un autre intéressant tiré d'Ézéchiel 14, 14. Même si ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, à propos de Daniel, il y a un débat à ce sujet, étaient dedans, ils ne délivreraient que leur propre vie par leur justice, déclare le Seigneur. En d'autres termes, ce sont des hommes vertueux. Noé, le déluge, il l'a sauvé du déluge. Daniel ou Daniel, nous allons sauter le débat là-dessus, et Job, ces gens-là ne se sauveraient que par leur justice. Le reste du peuple serait jugé. Et donc, Ézéchiel 14, 14, Jérémie 15, 1, évoque en quelque sorte ces noms. D'autres noms personnels viennent comme ceci. Voici les noms des fils d'Israël qui descendirent en Égypte avec Jacob. Jacob est un nom personnel. Chacun dans sa famille, c'est Exode 1, 1 à 4. Ruben, nom personnel. Siméon, nom personnel. Ce sont des noms de tribus en Israël, les 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Il énumère les 12 tribus d'Israël. Ce sont donc tous des noms personnels faisant référence au peuple descendu en Égypte. Exode 3h14 et 15, passage célèbre, le buisson ardent. Ainsi, Moïse monte au buisson ardent et reçoit un appel personnel de Dieu. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit à Moïse, encore une fois, le nom personnel de Moïse, dit aux Israélites, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Abraham, Isaac et Jacob sont spécifiquement mentionnés ici, « m'a envoyé vers vous. » Cela sort du buisson ardent lors de la rencontre de Moïse avec Dieu dans la théophanie dans le buisson. Il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu s'identifie par ces trois noms personnels. Les noms de personnes ne se trouvent pas dans les proverbes. Ésaïe chapitre 51, 2, « Regardez vers Abraham votre père, dit Isaïe, et vers Sarah, qui vous a enfanté. » Il énumère donc ici Abraham et Sarah, Ésaïe 51, 2. Allez bien plus tard dans l'histoire d'Israël, après l'exil à Babylone, Néhémie 9, 7, « Tu es l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir du rang chaldé et qui l'a nommé Abraham. » Ainsi, Néhémie souligne ici le fait qu'Abraham, qui est sorti du rang chaldé, plus tard, Dieu l'a rebaptisé Abraham, père de nombreuses nations, et l'a renommé. Néhémie reprend les noms d'Abraham et d'Abraham. Néhémie 13, 1, ce jour-là, le livre de Moïse, identifiant la Torah, le livre de Moïse fut lu à haute voix aux oreilles du peuple. Ainsi, le livre de la Torah a été identifié comme étant le livre de Moïse. Néhémie chapitre 13, 1. Et les psaumes? Les psaumes ont même beaucoup de noms. Très souvent, ils figurent dans le titre des psaumes. Psaume 51, psaume très célèbre, David et Bethsabée et il se repent de son péché. Le psaume 51 dit, pour le directeur de la musique, un psaume de David, c'est un nom personnel, lorsque le prophète Nathan, nom personnel, est venu vers lui après que David, nom personnel, ait commis l'adultère avec Bethsabée, nom personnel. Donc, dans ce seul titre, vous obtenez environ 4 noms. Également dans le livre du psaume lui-même, psaume 105, 26, Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, mentionne Moïse par son nom et Aaron qu'il avait choisi, mentionne Aaron, son nom personnel. Les chapitres 105, 9 et 42, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, énumère à nouveau l'alliance avec Abraham dans le psaume 105. 105.17, il avait envoyé un homme devant Joseph. Alors maintenant, il mentionne Joseph dans le livre de la Genèse, évidemment, et qui a été vendu comme esclave. Psaume 106 puis Phinéas se leva. Alors maintenant, vous avez l'histoire de Phinéas qui fait son chemin dans le psaume 106. Ainsi, le psaume 105, le psaume 106, il mentionne Abraham et diverses personnes du passé, ainsi que Joseph et ce genre de choses. Ainsi, les psaumes contiennent de nombreux noms personnels disséminés partout. En fait, il n'y a pas de nom personnel dans les proverbes en dehors des titres. Alors que dans le reste de l'Ancien Testament, les noms personnels sont omniprésents partout. Les proverbes sont différents. Les proverbes sont différents. Maintenant, le deuxième point, il n'y a pas de groupes tribaux ou de nations nommées, qui sont omniprésents dans le reste de l'Ancien Testament. Mais dans les proverbes, ils sont contenus en grande partie dans les titres et les titres disent essentiellement « David, roi d'Israël ». Ainsi, Israël en est un. Puis en 25, 1, il mentionne Ézéchias, le roi de Juda, par opposition à Israël, le royaume divisé en 9.31. Donc, fondamentalement, Israël et Juda sont les seules tribus et celles-ci figurent à nouveau dans les titres. Et puis aussi, j'ai repris cela plus tard lorsque Madame Folly essaie de séduire le jeune homme. Et elle dit, en gros, mon mari n'est pas en ville, mec, j'ai préparé la chambre pour toi. Et j'ai des draps d'Égypte au chapitre 7, 16. Il mentionne des draps égyptiens. Ainsi, l'Égypte est mentionnée dans ce contexte. Apparemment, c'était célèbre pour leurs draps. Et nous y reviendrons dans une seconde. Les groupes tribaux en dehors des proverbes qui sont mentionnés incluent les Moabites, vous avez les Ammonites, vous avez les Édomites, vous avez Israël, vous avez les Philistins mentionnés partout, les Égyptiens, les Chaldéens, les Amoréens, les Amalécites, les Araméens, les Assyriens, les Babyloniens, les tribus d'Israël, Éphraïm, Juda, Benjamin, Dan, ceux-ci en tant que groupes tribaux ne sont pas mentionnés dans les proverbes, autres que le titre Israël. Voici maintenant quelques exemples. Exode chapitre 3, verset 8. Je suis donc descendu pour les secourir, dit Dieu, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire sortir du pays dans un pays bon et spacieux. Remarquez l'accent mis sur la terre, une terre où coule le lait et le miel. La maison des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périsites, des Hivites et des Jébusiens. Aucun de ces Hittites et Hittites n'est mentionné du tout, zéro, dans le livre des Proverbes. Ils sont répertoriés ici, 2, 4, 6 d'entre eux sont répertoriés ici à la suite. Esdras 9, 1 fait écho à cela. Maintenant, c'est des centaines d'années plus tard. Vous avez Moïse, puis Esdras aux deux extrémités du canon. Esdras 9, 1 dit, après que ces choses eurent été faites, les chefs vinrent vers moi et dirent, le peuple d'Israël, y compris les prêtres et les lévites, ne se sont pas séparés des peuples voisins avec leurs pratiques détestables. Comme ceux des Cananéens, des Hittites, des Périsites, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. 2, 4, 6, 8 de ces Hittites et Hittites répertoriés, beaucoup d'entre eux répétant ce que nous avons vu dans l'Exode avec certains ajoutés avec les Moabites, les Ammonites, etc. Dans Juges 21, les Benjamites, cependant, ne chassèrent pas les Jébuséens. Donc, dans Josué, oui, ils se sont emparés de tout le pays. Et puis vous entrez dans les Juges et vous dites, eh bien, oui, pas vraiment. Ils s'emparèrent de la majeure partie du pays, mais ils ne purent chasser les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens sont donc toujours à Jérusalem et les Benjamites ne peuvent pas chasser les Jébusiens. Mais remarquez qu'il énumère les Benjamites et qu'il énumère également les Jébuséens, deux groupes tribaux, un en Israël et un à l'extérieur. Jusqu'à ce jour, les Jébuséens et les Benjamites y habitent, etc., etc. Les tribus d'Israël sont mentionnées dans le livre de Josué. Alors que Josué divise le pays, il le divise entre les différentes tribus et tribus. Et donc ces tribus ne sont pas mentionnées en Israël ni dans le livre des Proverbes. Juges chapitre 12, verset 4, Jephté rassembla alors les hommes de Galad et combattit Éphraïm. Les Galadites, encore une fois, les Hittites et les Hittites, les Galadites, ces gens qui vivent à Galad en Transjordanie, les ont frappés parce que les Éphraïmites, encore une fois, un groupe tribal en Israël avait dit, « Vous, les Galadites, êtes des renégats d'Éphraïm et de Manassé. » Encore une fois, les Galadites sont présentés avec les Éphraïmites. Les Édomites sont très célèbres. Ils étaient les descendants d'Ésaü. Ainsi, les descendants d'Ésaü étaient des Édomites jouant avec le mot rouge et leur montagne y étant rouge. Pétra en est un exemple célèbre. Deutéronome 23, 7, « Ne méprisez pas un Édomite, car les Édomites vous sont apparentés. » Ouais. Ils sont comme les descendants d'Ésaü. Alors, détendez-vous avec eux. Ne leur faites pas de mal. Ne prenez pas leurs affaires. Laisse-les tranquilles. Ne méprisez pas un Égyptien parce que vous avez résidé comme étranger dans son pays. Donc ici, vous avez des Égyptiens mentionnés et des Édomites mentionnés dans la Bible disant, et, respectez-les. Ces personnes sont liées à vous. Les Égyptiens, vous avez été accueillis par leur pays. Bien sûr, vous étiez réduits en esclavage, mais vous y étiez hébergés. Alors, allez-y doucement avec les Égyptiens également. 1 Samuel 21h07. Or, ce jour-là, il y avait là un des serviteurs de Saul, détenu devant l'Éternel. Son nom était Doeg l'Édomite. Et ainsi, il est désigné comme un Édomite, un descendant d'Ésaü. Mais remarquez comment il est introduit. Cela s'inscrit naturellement dans le récit. Doeg l'Édomite, le chef berger de Saul. Et puis Doeg procède au meurtre des prophètes ou des prêtres de Nob. Des chapitres entiers sont donnés aux Édomites. Donc, vous obtenez le chapitre 36 de Genèse. Vous y avez une généalogie des Édomites. Jérémie 49 est parallèle à cela. Et puis tout le livre d'Abdia, tout le livre. Eh bien, ce n'est pas un très long livre, mais au moins le livre entier d'Abdia est fondamentalement une condamnation d'Édom. Et puis l'un des classiques est le psaume chapitre 137, verset 7. Le psaume 137, verset 7, dit ceci, « Souviens-toi, Seigneur, de ce que les Édomites ont fait le jour où Jérusalem est tombée, démolis-la, criait-il. » Ainsi, ici, dans le souvenir d'Israël, et cela est mis dans une chanson, ils se souviennent que lorsque le temple a été détruit, ce qui a été dévastateur pour Israël à bien des égards, le temple a été détruit et ils ont été dévastés. Ce sont les Édomites qui se sont présentés pour encourager les Babyloniens alors qu'ils le détruisaient, le démolissaient. Les Édomites ont crié et les Israélites ont mis cela dans un chant, le psaume 137 du livre des psaumes. Ainsi, les Édomites étaient célèbres dans toute l'écriture, nulle part dans le livre des Proverbes. Moabites, les origines des Moabites se trouvent au chapitre 19, verset 37 de la Genèse. Et dans Genèse 19, en gros, Lot sort dans la grotte après s'être échappé de Sodome et Dieu détruit Sodome et Gomorre. Il est dans une grotte avec ses filles. Il le saoule. Ils ont des enfants de leur père. Et ainsi, il est nommé Moab, du nom de son père. Je suis désolé, c'est un peu dégoûtant, mais c'est de là que vient le terme Moab, du père. Exode 15, 15, les chefs d'Édom seront terrifiés et les dirigeants de Moab et encore, énumèrent les groupes tribaux, Édom et Moab seront saisis de tremblements et le peuple de Canaan fondra. Souvenez-vous du roi qui a engagé Balaam, Balaam et son âne parlant dans Nombre 22 à 24. Balaam va maudire Israël parce que Balak, roi de Moab, a engagé Balaam pour venir poursuivre Israël en les maudissant. Et donc Balak, roi de Moab, encore une fois, énumérant ces choses, Nombre 22 à 24, partout, était d'origine moabite là-bas. Deutéronome chapitre 2, verset 9, « Alors l'Éternel m'a dit, ne harcèle pas les Moabites et ne les incite pas à la guerre, car je ne te donnerai aucune partie de leur pays. » Et donc, encore une fois, les Moabites étaient liés à Israël par l'intermédiaire de Lot et se détendaient essentiellement avec les Moabites. Cependant, dans Samuel 8, 2, David bat également les Moabites. Il y a une certaine tension là-bas et David s'en est pris aux Moabites dans 2 Samuel 8, 2. Un roi 11.1 dit également que le roi Salomon aimait cependant beaucoup de femmes étrangères en plus de la fille de Pharaon. Moabites, Ammonites, Édomites. Nous venons de regarder ces Moabites, Ammonites, Édomites. Salomon prit dans ses affaires ses concubines et diverses femmes, les Sidoniennes et les Hittites. Et il mentionne cela lors de sa chute au chapitre 11 de 1 roi 11, 1. Nous ne voulons pas aborder ce sujet, mais il y a encore beaucoup à dire. Ésaïe chapitre 16, 7, c'est pourquoi les Moabites gémissent. Ils gémissent ensemble après Moab. Ainsi, les Moabites dans le livre d'Ésaïe sont à nouveau mentionnés. Ruth est connue sous le nom de Ruth la Moabite. Donc, elle vient du pays de Moab et de cette descendance, de cette région, et elle s'appelle Ruth la Moabite. Ainsi, les Moabites sont mentionnés tout au long des Écritures. Pourtant, il n'y a aucune mention dans les Proverbes. Les Ammonites, encore Ammon, mon peuple de l'eau et ses filles dans la grotte, deux filles, l'une enfanta des Moabites, l'autre enfanta des Ammonites, et Ammon Jordan porte encore aujourd'hui le nom d'Ammon. La plus jeune fille eut aussi un fils et elle l'appela Ben-Ami, fils de mon peuple. Et il est jusqu'à ce jour le père des Ammonites. Et c'est donc de là qu'ils viennent en tant que descendants de l'eau. Deutéronome 2h37, mais conformément au commandement de l'Éternel notre Dieu, vous n'avez empiété sur aucun pays des Ammonites. En d'autres termes, quand Israël est arrivé et qu'ils ont contourné Édom, parce que Dieu a dit, ne les dérangez pas. Ce sont les descendants d'Ésaü. Ne plaisantez pas avec Moab, ce sont les descendants de Lot. Ils sont frères et ne plaisantent pas avec les Ammonites et ils ne les ont pas touchés. Or, alors qu'ils passaient devant Édom, Moab et Ammon, puis les Amoréens Ogé et Sion, boum, ils les attaquèrent et ils étaient des Amoréens et les Amoréens n'étaient pas frères des Israélites. Et c'est donc ce qui s'est passé là-bas. Mais quoi qu'il en soit, Juges 3, 13, incitant les Ammonites et les Amalécites à le rejoindre, Églon vint et attaqua Israël. Églon, je crois, était un roi moabite et il se fait aider par les Ammonites et les Amalécites. Donc, il y a encore deux Hittéliens et ils ont pris la ville de Palme, la ville de Jéricho, juste de l'autre côté du Jourdain. Juges 10h07, Jephté, il se mit en colère contre eux. Il les vendit entre les mains des Philistins, un groupe célèbre en Israël, les Philistins et les Ammonites. Ainsi, les Ammonites et les Philistins se sont regroupés et Jephté va affronter les Ammonites et il va y avoir des guerres là-bas dans le livre des Juges et Jephté va réussir. 1 Samuel chapitre 14, verset 47, Saul avait pris le pouvoir sur Israël et il combattit leurs ennemis de tous côtés. Moab et les Ammonites, voilà vos Ammonites, Édom, roi de Zoba, et les Philistins, encore une fois, Philistins, non tribal. Partout où ils se tournaient, il leur infligeait des punitions. Jérémie saute loin dans les prophètes dans le temps, Jérémie concernant les Ammonites et puis il passe au chapitre 49, 1, c'est ce que le Seigneur dit à propos d'Ammon et des Ammonites, il va après eux et où le livre, les prophètes vers à la fin, Jérémie a toutes ses sections contre les différents auteurs et collants de Babylone même. Dans Jérémie 49 et suivant, Sophonie 2, 9, donc, aussi longtemps que je vis, déclare le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, Moab deviendra sûrement comme Sodome et les Ammonites comme Gomorre. Donc ici, vous avez Sophonie à l'autre bout du temps dans l'histoire, un lieu de mauvaises herbes et de salines, un terrain vague pour toujours. Il mentionne que les Ammonites tombent tout comme Gomorre. Donc, les Ammonites, nous avons donc regardé les Édomites, les descendants d'Ésaü, les Moabites ont beaucoup mentionné toutes les écritures qui y sont liées, les Ammonites, Amon Jordan et les Ammonites, Jephté, etc. Et ce sont maintenant les Philistins, un autre groupe mentionné partout dans les Écritures. Même dans Genèse chapitre 26, 1, il y avait une famine dans le pays en plus de la famine précédente du temps d'Abraham. Et Isaac se rendit chez Abimélec, roi des Philistins à Guérar. Vous avez donc ici Abimélec, le roi de Guérar, et c'est un Philistin. En fait, rappelez-vous qu'avant qu'Isaac ne fasse ça, il allait mentir à propos de sa femme, « Elle est encore ma sœur ». Isaac va faire la même chose que son père. Son père l'a déjà fait. Je pense que c'était également au chapitre 12 ou 20 de la Genèse avec le roi philistin. Juges 10, 6, et encore, les Israélites ont fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Ils servaient les Baals et les Achéros et les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites, les dieux des Philistins. Il énumère les Philistins parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur et ne l'ont plus servi. Juges 14, 4, qui a combattu, lequel des juges a réellement combattu les Philistins tête haute? Ses parents, les parents de Samson, ne savaient pas que cela venait du Seigneur qui cherchait une occasion d'affronter les Philistins. Samson va donc affronter les Philistins. Et effectivement, il va épouser Dalila, une Philistine. Il va entrer dans le temple à la fin de sa vie, et il va abattre les murs et tuer plus dans sa mort que comme il y avait un temple philistin que Samson a laissé tomber à la fin de sa vie. Ainsi, toute la vie de Samson est due au fait qu'il est également là où il vivait dans la région de Beth-Shemesh, dans la vallée, et en sortant vers les Philistins. Et c'est pour cela qu'il a épousé une Philistine en premier lieu. David, dit-il, David a couru et s'est levé. Il s'agit de 1 Samuel 17, 51. David courut et se plaça au-dessus de lui. Il saisit l'épée du Philistin et la sortit de son fourreau. Et il le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Puis, quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils se retournèrent et s'enfuirent. David bat les Philistins en tuant Goliath, le chef des Philistins ou le grand guerrier des Philistins. Donc, David et Goliath, tout ce contexte est celui des Philistins. Les Philistins sont mentionnés, Philistins, 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 Philistins. Dans Ésaïe 9, 12, les Araméens de l'Est et les Philistins de l'Ouest ont dévoré Israël la bouche ouverte. Les Araméens, essentiellement la Syrie, sont descendus de l'Est et les Philistins de l'Ouest est mentionné dans le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire d'Israël, car le jour est venu de détruire tous les Philistins. Donc les Philistins sont là. Et puis bien sûr, revenons à Amos 1, 8, je détruirai le roi d'Ashdod, celui qui tient le sceptre à Ashkelon. Et je tournerai ma main contre Écron jusqu'à ce que les derniers Philistins soient morts. Ainsi, les Philistins avaient 5 villes connues sous le nom de Pentapol, 5 villes de Pentapol, 5 villes, Écron, Gath, Gath et d'où Goliath était originaire, Ashdod, Ashkelon et Gaza, la bande de Gaza, où les stripteaseurs de Gaza sont encore, jusqu'à ce jour. Gaza est une plaie pour Israël. Où sont les mentions des Philistins dans le livre des Proverbes? 0. Aucune nation majeure n'est mentionnée, sauf comme nous l'avons mentionné, dans la mesure où les draps égyptiens sont mentionnés en 7.16 dans les Proverbes. À part ça, il n'y a aucune mention. Cela me rappelle en quelque sorte que les draps égyptiens sont célèbres, même aujourd'hui. Vous avez le gars de MyPio qui se lève et dit qu'il a ses draps de rêve Gizeh qui sont censés être vraiment bons parce qu'ils utilisent du coton de Gizeh, qui se trouve essentiellement en Égypte avec le Nil et la mer Méditerranée. Et il a ses draps de rêve Gizeh, le meilleur coton du monde. Et jusqu'à ce jour, il fait la publicité du meilleur coton du monde, achète mes draps de rêve de Gizeh. Et donc, en fait, les proverbes, vous savez, il y a longtemps, reprennent ceci, les draps égyptiens. Je suis désolé, ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, Genèse 12, Didi, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y vivre quelque temps à cause de la famine. Famine en Israël, où est-il allé? Il descendit en Égypte. L'Égypte est une culture fluviale. Donc, ils ont toujours, comment devrais-je dire, ils ont toujours des récoltes. Il y a rarement des famines là-bas. Maintenant, il y a des famines là-bas de temps en temps. Nous le voyons avec Joseph, mais l'Égypte était en grande partie la corbeille à pain. Et donc, vous avez des problèmes en Israël. Israël est une culture de la pluie et vous n'avez pas de pluie. Vous devez descendre en Égypte dans la culture fluviale pour obtenir votre nourriture, comme Abraham l'a fait ici et Israël plus tard. Genèse chapitre 39, verset 1. Or Joseph avait été emmené en Égypte. Alors le frère de Joseph l'a mis dans une fosse. Ils le vendirent alors aux Ismaélites. Les Ismaélites l'emmenèrent en Égypte et il y fut vendu comme esclave. Exode chapitre 1, verset 8. Puis un nouveau roi pour qui Joseph ne représentait rien arriva au pouvoir en Égypte. Tous les premiers chapitres de l'Exode, le Pharaon et Moïse en Égypte, l'Exode, la sortie d'Égypte, les chapitres 14 et 15 de l'Exode et la Pâque sont tous construits autour de la mort du premier-né en Égypte. Ainsi, l'Égypte sont mentionnés partout, pas dans le livre des Proverbes, à l'exception de ces draps égyptiens du chapitre 7. Josué chapitre 24, verset 6. Quand j'ai fait sortir ton peuple d'Égypte, tu es venu vers la mer et le motif de l'Exode. Juges chapitre 6, verset 8. Il leur envoya un prophète qui dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Ainsi, Dieu est connu comme le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et cela est évoqué à maintes reprises. Le motif de l'Exode se retrouve dans tout le Testament. Et ainsi, il les fit sortir d'Égypte, Égypte, 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 ce qui n'est pas mentionné dans le livre des Proverbes. 1 Samuel chapitre 15, verset 2. C'est ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Je punirai les Amalécites pour ce qu'ils ont fait à Israël lorsqu'ils l'ont attaqué alors qu'ils sortaient d'Égypte. Encore une fois, l'Égypte a été mentionnée. 1 Roi 4, 30, la sagesse de Salomon était plus grande que toute la sagesse des peuples de l'Orient et plus grande que toute la sagesse de l'Égypte. Égypte. Nous avons une tonne de littérature de sagesse égyptienne, et cette littérature de sagesse dit que la sagesse de Salomon était plus grande que celle du peuple égyptien. Remarquez encore, Égypte, remarquez le lien avec la sagesse et les choses non mentionnées dans le livre des Proverbes. Néhémie, beaucoup plus tard après l'exil et la destruction du temple par l'Exode, Néhémie chapitre 9, verset 18. Et quand ils se jetèrent une image de veau et dirent, c'est ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte ou ce sont les dieux. En d'autres termes, ce n'est pas Yahweh Jéhovah qui vous a fait sortir. Ce sont ceux-là, le veau que Dieu vous a fait sortir. Ce sont les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Et cela fait partie de l'idolâtrie. Mais remarquez qu'ils vous ont fait sortir d'Égypte est identifié même par Néhémie comme un événement important dans l'histoire d'Israël. Les psaumes y entrent beaucoup. David Emmanuel, si vous vous lancez dans l'apprentissage en ligne biblique et que vous allez aux psaumes, vous verrez 5 conférences où David Emmanuel développe le motif de l'Exode sortant d'Égypte dans le livre des psaumes. Psaume 78, psaume 105, 106, psaume 135 et 136. Dans ces 5 psaumes, il montre comment le motif de l'Exode trouve un écho dans le livre des psaumes. Voici psaume, je vais en faire un différent. Psaume 81, 10, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte, tiré du psaume 81, 10. Ésaïe 11, 11, ce jour-là, l'Éternel étendra la main une seconde fois et récupérera le reste survivant de son peuple d'Assyrie, de la Basse et de la Haute-Égypte, de Cush, de Jérusalem. Et il continue, mais remarquez qu'il va les ramener hors de la haute et de la basse Égypte comme mentionné. Et encore une fois, comme nous l'avons dit précédemment, la seule mention dans les proverbes concerne ces linges colorés d'Égypte au chapitre 7, verset 16. L'Assyrie n'est pas du tout mentionnée dans les proverbes. Babylone n'est pas du tout mentionnée dans les proverbes. L'Égypte n'est mentionnée que pour le linge. Ainsi, les proverbes ne donnent pas de groupes tribaux, philistins, ammonites, moabites, hittites, jébusites, aucun d'entre eux n'est mentionné dans l'Ancien Testament. Les proverbes sont différents. Et maintenant, qu'en est-il des lieux? Troisièmement, il n'y a pas de ville ou de lieu, de frontières tribales qui sont omniprésentes dans l'Ancien Testament, tous ces lieux sont répertoriés en détail. Pourtant, il n'y en a aucun dans le livre des proverbes. Zéro. Il ne mentionne même pas, eh bien, le premier ne mentionne même pas Jérusalem, Sion, un lieu célèbre, Salem, peu importe comment vous voulez l'appeler, Jérusalem, Salem, Sion, ne mentionne pas le livre des Proverbes. Et pourtant, dans Genèse 14, 8, Melchizedek, roi de Salem, Melchizedek, roi de Jérusalem, apporta du pain et du vin. Il était le prêtre du Dieu Très-Haut. Josué 10h1, Adonizedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué m'avait pris. Josué 15, 63, Juda ne put déloger les Jébuséens qui vivaient à Jérusalem. Ainsi, les Jébusiens possédaient Jérusalem et les Benjamites, où ici il est dit que Juda ne pouvait pas les déloger. Jusqu'à ce jour, les Jébusiens avaient le contrôle. Dans 1 Samuel 17, 54, David prit la tête du Philistin, la tête de Goliath, et l'apporta à Jérusalem. Ce serait après qu'il l'ait tué plus tard. Il amène sa tête à Jérusalem et il met les armes du Philistin dans ses propres tentes. Il avait donc l'épée de Goliath, la tête de Goliath qu'il a laissée à Jérusalem. 2 Samuel 5, 5, à Hébron, David régna sur Juda pendant 7 ans. Ainsi, David a été roi pendant 7 ans à Hébron, qui est au sud, je ne sais pas, à environ 20 000 au sud de Jérusalem, et pendant 6 ans. Et à Jérusalem, il régna sur Israël et Juda pendant 33 ans. Il était donc à Hébron, régna sur Juda, puis il s'étendit. Il a pris la capitale vers le nord. Ce serait comme avoir votre capitale à Miami. C'est trop au sud. Ils n'en ont pas à Miami. Ils l'ont placé à Washington DC, au milieu des 13 États, et l'ont placé au milieu. Ainsi, David a déplacé sa capitale vers le nord, à Jérusalem, et Jérusalem est alors devenue la ville de David parce que David l'a capturée et en a fait sa capitale. Et puis David y amènera l'arche. David, Salomon et Salomon y construiront le temple à Jérusalem. Plus tard, Jésus viendra à Jérusalem et y mourra. Quoi qu'il en soit, c'est Jérusalem, une très grande ville. Jérusalem, Salomon y construisit le temple. Il n'y a aucune mention dans les Proverbes. 1 Roi 9, 15, voici le récit des travaux forcés que le roi Salomon a imposés pour construire le temple du Seigneur, son propre palais et les terrasses, la muraille de Jérusalem et Hazor, Megiddo et Jezé. Ainsi, il énumère Hazor, Megiddo et Jezé avec Jérusalem. Salomon reconstruisit ces villes de manière particulière. Et ils sont mentionnés spécifiquement dans un roi. Il n'y a aucune mention de ces choses dans les Proverbes. Psaume 15:18, qu'il te plaise de faire prospérer Sion, de bâtir les murs de Jérusalem. Psaume 51, confession de David de son péché avec Bethsabée. Et il dit à la fin, il dit, qu'il vous plaise de faire prospérer Sion. En d'autres termes, j'ai péché contre vous, mais je fais toujours prospérer Sion, je bâtis les murs de Jérusalem. Et David prie pour cela. Le psaume 137, comme nous l'avons dit, est un psaume vraiment classique. Le psaume 137 décrit la destruction du temple par les fleuves de Babylone. Remarquez que Babylone est mentionnée, mais jamais mentionnée dans les Proverbes. Au bord du fleuve de Babylone, nous nous sommes assis et avons pleuré en nous souvenant de Sion, en nous souvenant de Jérusalem. Là, sur les peupliers, nous accrochions nos harpes car l'anneau ravisseur nous demandait des chants, nos bourreaux exigeaient des chants de joie. Ils dirent, chante-nous un des chants de Sion. Ici donc, les Juifs ont été exilés. Le temple a été détruit. Ils sont emmenés à Babylone et les Babyloniens disent, chantez-nous un des chants de Sion. Ainsi, Sion était le centre des psaumes, du culte des psalmiques et des processions qui montaient à Jérusalem. Et maintenant les Babyloniens les ont pris et ils disent, chante-nous un des chants de Sion. Époque terrible dans l'histoire d'Israël. Ainsi, Jérusalem, Jérusalem, Salem et Sion ont mentionné les trois écritures, 0. Dans les Proverbes. C'est plutôt incroyable. Sinaï, Sinaï aussi un autre endroit célèbre. Exode 19, 20, le Seigneur descendit au sommet du mont Sinaï et appela Moïse au sommet de la montagne. Alors Moïse monta. Sinaï chapitre 19, 23 de l'Exode, Moïse dit au Seigneur, le peuple ne peut pas gravir le mont Sinaï parce que tu nous as toi-même prévenus, tu as mis des limites autour de la montagne et tu l'as mise à part comme sainte. Ainsi, le mont Sinaï a été mis à part. Les gens n'étaient pas autorisés à monter. Moïse est monté, il n'avait pas le droit de monter sur le mont Sinaï. Deutéronome 33, 2, le Seigneur, dit-il, le Seigneur est venu du Sinaï et s'est levé sur eux depuis Séir. Séir est l'endroit où vivent les Édomites. Il brillait depuis le mont Paran. Juges 5:5, les montagnes tremblent devant le Seigneur, celle du Sinaï. Remarquez comment Dieu s'identifie même à cet endroit. Et les montagnes tremblèrent devant le Seigneur, celui du Sinaï, et se reconnurent. Psaume 68, 8, la terre trembla, les cieux déversèrent de la pluie devant Dieu, celui du Sinaï. Ainsi, Dieu était associé au Sinaï en sa présence là-bas. Vous vous souvenez également qu'Élie fuyait Jézabel et il a fini par descendre au Sinaï et il a rencontré Dieu au Sinaï lors de sa fuite de Jézabel. Dieu le renvoie. Quoi qu'il en soit, vous vous souvenez de cette histoire. Et maintenant, qu'en est-il du Jourdain? On parle beaucoup d'Israël comme de la Jordanie. Nous avons des chansons. J'ai vu le puissant Jourdain rouler, et ce genre de choses. La Jordanie ressemble en fait davantage à une crique en Amérique, mais elle est grande là-bas. Genèse 13, 11. Alors l'eau se choisit toute la plaine du Jourdain et se dirigea vers l'est. Abraham va vers l'ouest et l'eau descend là où se trouve le Jourdain, le Jourdain. Ainsi, cela est mentionné dans le livre de Genèse 13. Dans le livre de Nombre 22, les Israélites se sont rendus dans les plaines de Moab et ont campé le long du Jourdain, en face de Jéricho. Jéricho se trouve donc ici, à quelques kilomètres seulement du Jourdain. Et donc le Jourdain, lorsque vous traversez le Jourdain, Jéricho est la première ville que vous frappez dans la vallée du Rift, juste au nord de la mer Morte. Ainsi, le Jourdain est fréquemment mentionné dans les Écritures. Deutéronome 1, 5, à l'est du Jourdain, sur le territoire de Moab, Moïse commença à exposer la loi. Ainsi, Moïse est dans les plaines de Moab, exposant la loi, le livre du Deutéronome. Et pendant qu'il regarde, il baisse les yeux et qu'y a-t-il? Le Jourdain est juste de l'autre côté du Jourdain, la ville de Jéricho. Et vous pouvez le voir depuis le mont Pisga. Et vous regardez le Jourdain et Jéricho. Et c'est là que Moïse livre le livre du Deutéronome. Josué 3:13. Et ils dirent que lorsque les prêtres descendaient, ils traversaient le Jourdain. Ils posèrent le pied dans le Jourdain, ses eaux qui coulaient en aval furent coupées et se dressèrent en tas. Et ainsi, le Jourdain fut traversé. L'accent est mis sur le fait que les prêtres ont proposé de transporter l'arche et l'eau, puis ont été arrêtés à Adma et que les prêtres ont traversé sur un sol sec comme ils l'ont fait en quelque sorte avec l'Exode, faisant en quelque sorte écho à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer des roseaux. 2 Samuel 19:5, puis le roi revint et alla jusqu'au Jourdain. Les hommes de Juda arrivèrent à Guigal. Guigal est juste un peu en dehors de Jéricho pour aller à la rencontre du roi et lui faire traverser le Jourdain. C'est alors qu'Absalom, le fils de David, le poursuit. Absalom a essayé de tuer David. Alors David s'enfuit. Lorsque vous fuyez Jérusalem, vous descendez la colline dans la vallée du Rift et vous traversez le Jourdain pour entrer en Transjordanie. Et donc, David avait traversé là-bas et ensuite Absalom allait se faire tuer par Joab de l'autre côté en Transjordanie. Et maintenant, David revient de l'autre côté du Jourdain et il est noté qu'il traverse le Jourdain. Donc c'est mentionné partout. Élie lui dit, « À Élisée, reste ici. Le Seigneur m'a envoyé au Jourdain. » Il répondit, « Aussi sûrement que le Seigneur vit en Juda, je ne te quitterai pas. » Ainsi, Élie essaie d'esquiver Élisée. Élisée, cet ange a dit à Élisée, « Émec, reste avec lui parce que si tu le vois quand il partira, quelque chose de bien va t'arriver. » Et donc Élisée dit, « Je n'y vais pas. » Et puis Élie a dit, « Eh, reviens, reviens, reviens. Je dois traverser le Jourdain et revenir. » Il dit, « Je n'y retourne pas. » Alors Élisée essaie de le suivre. Et puis Élie s'est transformé et des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire plutôt sympa avec le Jourdain. Psaume 114, 3, la mer regarda et s'enfuit. Le Jourdain a fait demi-tour. La mer a regardé et s'est enfuie. Exode 14 et 15, sortant d'Égypte et du Jourdain faisant demi-tour. Et donc, le Jourdain était en quelque sorte parallèle ici à l'Exode sortant de la mer Rouge. Jérémie 12, 5, si vous avez couru avec des hommes à pied et qu'ils vous ont épuisé, comment pourrez-vous rivaliser avec des chevaux? Si vous trébuchez dans un pays sûr, comment vous débrouillerez-vous dans les bosquets du Jourdain? Ainsi, dit Jérémie, on ne peut pas courir à travers les fourrés du Jourdain. Et le Jourdain est fréquemment mentionné. Jésus est même baptisé dans le Jourdain. Le Jourdain est l'endroit où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. En fait, j'ai eu le privilège de baptiser ma propre fille dans le Jourdain, juste au sud de la mer de Galilée. Ainsi, le Jourdain est mentionné dans toutes nos Écritures, à de nombreux endroits, mais il n'est jamais mentionné dans les Proverbes. Ici, permettez-moi de faire une litanie de ces autres qui ne sont même pas mentionnés. Et ce sont des endroits célèbres en Israël. Il n'y a aucune mention dans les Proverbes de Bethel. Bethel est l'endroit où se trouve l'échelle de Jacob, il se couche et voit les anges monter et descendre. C'est là que les veaux d'or de Jéroboam, l'un d'eux est déposé à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Hébron, où les patriarches sont enterrés jusqu'à ce jour. Et vous allez à Hébron. Hébron, David y fut roi pendant la première partie de son règne, environ 7 ans. C'était roi à Hébron. Il n'est pas mentionné Beer-Sheva, de Dan à Beer-Sheva. Beer-Sheva n'est jamais mentionné. Le puits d'Abraham est là. Dan, au nord, toute la tribu de Dan descend jusqu'à la ville de Lesh, là-haut, juste au pied du mont Hermon. Dan a mentionné toute l'écriture, mais n'a jamais été mentionné dans les proverbes. C'est là qu'a également été posé l'un des veaux d'or de Jéroboam, jamais mentionné. Gilgal, est un endroit célèbre. Shilo, où le tabernacle a été initialement installé pendant plusieurs années en Israël. Shilo, encore une fois, n'est jamais mentionné dans les proverbes. Samarie, non mentionné. Sichem, non mentionné. Megiddo, non mentionné. Hazor, non mentionné. Jézreel, non mentionné. La Pentapole philistine, Akron, Gath, Ashton, Ashkelon, Gaza, ne sont jamais mentionnés dans le livre des proverbes. Voici aussi une chose intéressante, les villes lévitiques. Il y a 48 villes lévitiques où se rendaient les lévites. 48 villes leur furent données, ne sont jamais mentionnées dans les proverbes. Ville de refuge, 6 villes de refuge, 3 en Transjordanie, 3 en Jordanie, côté Israël, des lieux où les gens pouvaient fuir pour clamer leur innocence. Il existe des villes de refuge et aucune d'entre elles n'est mentionnée. Donc, le fait est qu'il n'y a pas de ville, de rivière, de frontières tribales ou de lieux tribaux mentionnés dans les proverbes alors que dans le reste de l'Ancien Testament, ces lieux, Bethel, Jérusalem, Sion, sont mentionnés et sont omniprésents dans tout le Testament. Aucun d'eux n'est mentionné dans les proverbes. Les proverbes sont différents. Les proverbes sont différents. Maintenant, je veux prendre du recul et c'est un travail numérique que j'ai fait. Et ce que je veux juste faire, c'est me laisser jouer à un jeu ici numériquement avec vous. Et maintenant, je sais, sans tableau et tout ça, et peut-être que je peux les intégrer. Ils sont dans le PowerPoint. Je mettrai en dessous cette conférence, je les mettrai dans le PowerPoint et aussi dans les notes qui s'y trouvent. Le livre de la Genèse, à quelle fréquence le livre de la Genèse porte-t-il des noms personnels? Eh bien, 802 fois, il porte des noms personnels, soit environ 52%. 52% des versets de la Genèse portent des noms de personnes, de tribus ou de villes. Je veux dire ces trois types de noms. En gros, 52% des versets longs. Dans le Deutéronome, il y en a environ 16%. Dans les Proverbes, il y a 1%. Quel contraste! 52% des versets de la Genèse, 16% des Proverbes, 1% et tout cela est dans les titres. Donc si vous supprimez les titres, vous n'avez rien. Et les noms de lieux? Dans la Genèse, 16% des versets de la Genèse, 16% portent des noms de lieux, Bethel, Égypte, Beer-Sheva, Sichem et divers lieux où se rendaient les patriarches. Dans le Deutéronome, 26% des versets portent des noms de lieux. Dans le livre des Proverbes, Genèse 16% des versets portent des noms de lieux, 26% dans le Deutéronome, Proverbes 0%. Les proverbes sont différents. Et puis qu'en est-il des noms tribaux, des noms nationaux, ammonites, moabites, philistins, ce genre de choses? Genèse 17% des versets mentionnent que 17%. Dans le Deutéronome, c'est 13%. Dans les proverbes, c'est 0,3%. C'est moins de 1%. Je veux dire, c'est 0,3% des versets qui l'ont. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous regardez numériquement, les proverbes sont hors du tableau pour les noms de personnes, les noms de lieux et les noms tribaux ou nationaux et en baisse comme 1% ou 0% entre 1% et 0% pour tous. Trois de ces catégories. Donc, ce que je dis, c'est que maintenant vous dites, eh bien, et ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai pris les versets qui, vous savez, la Genèse a 1533 versets. Et j'ai divisé cela en nombre de choses pour essayer de rendre le tout égal. Et puis le Deutéronome en a 959 et les Proverbes en ont 915. Donc, j'ai divisé entre 915 versets dans les proverbes, cela devrait sûrement avoir un nom de lieu. Je veux dire, 915 versets. Quel autre passage de l'écriture contient 915 versets et aucune mention de lieu? Il n'y en a pas. Alors, je les ai ensuite comparés et je les ai rendus un peu égaux. Les versets des proverbes 915 contiennent beaucoup de versets et pourtant aucun nom de lieu. Les noms des personnes sont très bas uniquement dans les titres. Je pense donc que les statistiques soutiennent ce que je viens de partager avec vous. Maintenant, permettez-moi de passer au numéro 4. Nous travaillerons à notre manière. Espérons que nous commencerons à aller un peu plus vite, mais pas de vocation ou d'appel de particulier. Pas d'appel vocationnel des individus dans le livre des Proverbes. Abraham est appelé dans Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ton peuple, la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. » La terre est une chose très importante pour Abraham. On lui dit de quitter Ur pour se rendre en terre promise. Moïse dans Exode 3, 9 verset 10. Alors maintenant, allez, j'envoie, oui, chapitre 3, 9 et 10. Alors maintenant, je vous envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple, les Israélites d'Égypte. Et ainsi, Moïse est envoyé à Pharaon, encore une fois, Pharaon, aucune mention de Pharaon ou d'un quelconque Pharaon dans le livre des Proverbes. Et Moïse est appelé à partir de l'appel du buisson ardent de Moïse dans Exode 3. Gédéon est appelé dans Juges 6, lorsque l'ange Seigneur est apparu dans Gédéon et il a dit, « Le Seigneur est avec toi, puissant guerrier. » En attendant, Gédéon se cache dans ce petit pressoir. Il a dit qu'il ne se sentait pas comme un puissant guerrier. Il dit, « Mon Dieu, allez. Qu'est-ce que c'est? Vous faites de moi un puissant guerrier. Je suis ici, me cachant de ces gens, des Madianites et tout ça. » Et puis Dieu appelle Gédéon et il devient un grand leader. Samuel, tu te souviens du petit garçon Samuel? Il est dans la maison d'Élie. Il est sous le prêtre Élie et le Seigneur dit, Samuel, Samuel. Et le petit garçon sort en courant et dit, Élie, que veux-tu? Élie dit, retourne te coucher, gamin. Et puis ça revient, Samuel, Samuel. Dieu dit, Samuel rencontre Élie. Élie, qu'est-ce que tu veux? Élie dit, vas-y. La troisième fois, finalement, Élie comprend et dit, mec, Dieu doit faire quelque chose avec toi, mec. Alors quand Dieu vient et dit, Samuel, Samuel, vous dites, me voici. Et donc Samuel, Samuel. Alors Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Jouez sur ces mots. Schéma signifie écouter en son nom. Et donc Samuel est alors appelé par Dieu pour cette vision nocturne à propos d'Élie et que les fils d'Élie vont de toute façon être tués. Cela continue à partir de là. Saul, Saul est appelé. Il part à la chasse à l'âne de son père. Il vient vers Samuel et Samuel finit par oindre Saul et l'appel de Saul et vient, allons à Guigal et la renouvelons la royauté. Saul, 1 Samuel 11, 14 et 15. Alors tout le peuple se rendit à Guigal et fit Saul roi en présence de l'Éternel. C'est donc l'appel de Saul. David, tu te souviens de l'appel de David comme roi et de 1 Samuel 16, 6 et suivant. Et puis ils arrivèrent, Samuel vit Eliab et pensa, l'onction du Seigneur est sûrement devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa taille car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne regarde pas les choses que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Alors le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Et puis, un peu plus tard, il dit, lève-toi et oint-le. C'est celui qui fait référence à David. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'onit en présence de ses frères. Et à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur descendit puissamment sur David. Samuel se rendit à Rama. Notez le nom du lieu et Samuel. Donc tous ces noms, rien de tout cela, aucun nom dans les Proverbes. David n'est mentionné que dans ce seul titre et Samuel n'est pas mentionné du tout dans Rama, bien sûr, n'est pas mentionné. Et donc, toutes ces choses, la préface est différente. Salomon reçoit son appel à Gabaon. Et voilà, il est sorti et le Seigneur est apparu à Salomon pendant la nuit dans un rêve. Et Dieu lui a demandé, demande tout ce que tu veux que je te donne. Donne donc à ton serviteur un cœur perspicace pour gouverner ce peuple et distinguer le bien du mal. Ainsi, Salomon demande de la sagesse. Et Dieu dit, vous savez, j'en suis content. Je vais te donner une longue vie et des richesses parce que tu ne les as pas demandées. Je vais quand même vous les donner. Ainsi, Salomon est appelé dans 1 Roi 3, encore une fois, aucun appel n'est mentionné dans les Proverbes. Ésaïe 6, au-dessus de lui il y avait des séraphins, chacun avec 6 ailes et 2 ailes. Ils se couvraient le visage, 2 ailes, ils se couvraient les pieds ou comme vous voulez interpréter cela. Et à 2, ils volaient et ils s'appelaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. La terre entière est pleine de sa gloire. Puis j'ai entendu une voix du Seigneur dire, d'accord, tout cela a été en quelque sorte époustouflé par cette vision céleste. Et puis tout d'un coup, le Seigneur dit, « Qui dois-je envoyer et qui ira pour nous ?» Et Isaïe dit, « Me voici, envoie-moi. » Quel appel, quel appel. Jérémie est appelé. Jérémie 1, 4 à 6. La parole de l'Éternel m'a été adressée, disant, « Avant de te former dans le sein maternel, je t'ai connu. Avant de te former dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Qu'en est-il de la formation dans l'utérus? Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Je t'ai établi prophète des nations. » Ce pauvre gars n'avait donc aucune chance. Avant même sa naissance, dit Dieu, je te connaissais, mec. Et je savais que tu serais un prophète pour les nations. Hélas, Seigneur souverain, dit-il, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Ouais, mais Dieu va mettre ses paroles dans ta bouche. Ils vont brûler comme un feu dans ta bouche et tu vas parler et tu vas être tabassé. Mais de toute façon, c'est une autre histoire. Jonas est appelé dans Jonas chapitre 1, la parole du Seigneur est venue à Jonas. Allez dans la grande ville de Ninive et prêchez contre elle, contre sa méchanceté. Sa méchanceté est apparue devant moi. Ainsi, Jonas est appelé à aller prêcher à Ninive. Bien sûr, il court et finit dans le ventre d'un poisson et finit par se retrouver à Ninive. Cela se passe là-bas. En voici un d'Amos. Amos est appelé et il le raconte parce qu'il reçoit des critiques de la part du roi. Amos répondit au roi Amatsia, « Je n'étais ni prophète ni fils de prophète, mais j'étais berger. Il dit que je n'étais pas un prophète rémunéré. Je n'ai pas été mis dans cette position pour gagner de l'argent et des choses comme ça. J'étais berger et je m'occupais aussi des figuiers sycomores. Mais l'Éternel m'a retiré de la garde du troupeau et m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Maintenant, écoutez la parole du Seigneur. Et puis il le poursuit. Bref, voici l'appel d'Amos. Il n'y a pas de vocation professionnelle dans les proverbes. Et nous avons ici de nombreux personnages majeurs en Israël. Aucun appel dans le livre des proverbes. Les proverbes sont différents du reste du Tanakh, l'Ancien Testament. En voici une qui est plutôt choquante en fait. Quelle a été l'une de ses plus grandes réalisations de Salomon? La construction du temple. David, son père ne pouvait pas construire le temple parce qu'il était un homme de sang. Salomon ou Shlomo construit le temple. C'est un homme de Shalom. C'est un homme de paix. Et ainsi, il peut construire le temple. David a économisé beaucoup d'argent. Ainsi, Salomon, lorsqu'il le fait, possède une grande partie de la richesse déjà fournie par son père David, mais il a dû gérer le projet. Jécabil a un livre merveilleux, « Le temple et la mission de l'Église », une théologie biblique de la demeure de Dieu par Jécabil. Bon livre sur le temple, le tabernacle, la demeure de Dieu habitant avec son peuple. Le tabernacle comporte d'énormes sections dans le livre de l'Exode décrivant le tabernacle, comment il devait être construit, puis comment il a été construit. Exode chapitre 25 à 40 essentiellement sur le désert du Sinaï, comment ils ont démoli le tabernacle, puis ils l'ont reconstruit. Les Lévites le porteraient et les prêtres le consacreraient. Plus tard, cette structure de tabernacle, après leur entrée dans la terre promise, serait transportée à Silo. Et pendant des années, ce serait à Shilo. Vous vous souvenez d'Élie, Ophni et Phiné à Silo. Et puis plus tard, David, après que l'arche soit sortie et ait été capturée par les Philistins. David ramènera l'arche à Jérusalem, sa ville, la ville de David parce qu'il l'a prise. David se prépare alors à la construction du temple. Alors Salomon, David ne pouvait pas le construire. Salomon construit le temple. C'est la plus grande réussite de sa vie. Un roi 8 et 9 décrivent magnifiquement cela. Un roi 8 et 9, Salomon construit le temple. Ainsi, le temple est un thème majeur dans les Écritures. Le temple fut détruit par les Babyloniens en 586-587. Les Babyloniens et Nabucodonosor entre-érasent les lieux. Et c'est que la destruction du temple a vraiment détruit beaucoup de choses pour les Israélites. De manière apocalyptique, il revient dans Ézéchiel chapitre 40 à 48 mentionnant ce temple apocalyptique de la fin des temps, tout comme le livre de l'Apocalypse. Il est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 21 et 22, la Nouvelle Jérusalem descend du ciel et il n'y a pas de temple là-bas. Il y a donc cette transition majeure. Mon bon ami David Matheusson a beaucoup écrit sur Apocalypse 21 et 22. Et il y a une transition. Jésus dit, « Détruis ce temple, son corps, dans trois jours je le relèverai. » Et puis l'Église devient. Il y a donc des transitions. Mais quoi qu'il en soit, lisez simplement quelques versets à ce sujet et sur l'importance du temple. Psaume 5, 7, « Mais moi, par ton grand amour, je suis venu chez toi. » Dans beaucoup de psaumes, l'accent est mis sur le fait de venir à la maison du Seigneur. Avec révérence, je m'incline devant votre saint temple. Le thème principal du psaume est les chants de Sion. Psaume 122, 1, « Je me suis réjoui avec ceux qui me disaient, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiennent dans tes portes, Jérusalem. Pendant que je me préparais, je faisais la vaisselle l'autre jour. Et je lève les yeux et ma femme, nous avons acheté cette plaque arménienne qui a été réalisée pendant que nous étions à Jérusalem. Nous vivions à Jérusalem dans les années 70, pas après JC, mais de toute façon, c'était il y a longtemps. Et nous avons ceci, c'est écrit en hébreu, si je t'oublie, Jérusalem, que j'oublie ma main droite. D'accord. Et donc Jérusalem est très importante dans le livre des psaumes, vraiment concentré là-bas. Ésaïe 40, 28, Ésaïe dit à Cyrus, qui dit à Cyrus, il est mon berger, Dieu parle au roi Cyrus, le Perse, et accomplira tout ce que je veux. Il dira à Jérusalem, qu'elle soit reconstruite, et au temple, compose ses fondations. Et donc, Cyrus sera celui qui parrainera, Ezra reconstruira le deuxième temple et tout. C'est intéressant car ils reconstruisent le deuxième temple. Maintenant Salomon construit, d'abord c'est un tabernacle, c'est dans une tente. Et puis, fondamentalement, Salomon construit le temple. Le temple perdure plusieurs centaines d'années et est détruit par les Babyloniens. Ils vont à Babylone pendant 70 ans, quand ils reviennent avec Esdra, Néhémie et ces gens-là, ils reconstruisent le temple. Mais le temple étant maintenant comparé au magnifique temple de Salomon, certaines personnes s'en souviennent, mais beaucoup de prêtres et de lévites plus âgés et de leurs chefs de famille qui avaient vu l'ancien temple pleurèrent à haute voix lorsqu'ils virent que les fondations de ce temple étaient en train d'être construites. Posées tandis que beaucoup d'autres criaient de joie. Alors, les plus jeunes disaient, « Eh bien, nous venons de poser les fondations du temple et ils sont tous excités. » Et certaines des personnes âgées l'ont regardé et ont dit, « Mec, ce n'est rien comparé à ce que Salomon avait. » Et finalement, Jésus entrera dans ce deuxième temple. Maintenant, Hérode, bien sûr, Hérode avant l'époque du Christ passera des années à reconstruire et à rendre magnifique le deuxième temple. Et Jésus entrera dans ce genre de structure hérodienne, mais ce sera le deuxième temple. Ainsi, les anciens des Juifs continuèrent à bâtir et à prospérer grâce à la prédication d'Agé le prophète et de Zacharie, un descendant des Idus. Ils achevèrent de construire le temple selon le commandement du Dieu d'Israël, les croyances de Cyrus, Darius, Artaxerxès, les rois de Perse. Encore Cyrus, Darius, Artaxerxès, roi de Perse. Aucun de ces types de noms n'est mentionné dans le livre des Proverbes. Il n'y a aucune mention du temple. Il n'y a aucune mention de la plus grande réussite de Salomon. Les proverbes sont différents. Pur, mais n'a jamais été mentionné dans les proverbes. C'est là qu'a également été posé l'un des veaux d'or de Jéroboam, jamais mentionné. Établissement. C'est le numéro 6. Les institutions ne sont pas mentionnées dans les proverbes. Qu'en est-il des prêtres, des prophètes et des juges? Les prêtres et les prophètes sont mentionnés dans toutes les écritures, pas un mot dans le livre des proverbes. L'accent est mis sur les rois et les rois sont mentionnés par leur nom ailleurs. On parle des rois dans les proverbes. Proverbe 1h1 Salomon, fils de David. Proverbe 10h1. Ce sont les proverbes de Salomon. Proverbe 25, 1. Ce sont tous des titres. Ce sont les proverbes de Salomon. Les hommes d'Ézéchia les ont copiés. Il y a donc des rois mentionnés et le roi Lémuel, la mère qui enseigne au roi Lémuel. Mais même si ce sont tous des titres, quand il décrit réellement des choses et parle de rois et de proverbes, aucun d'entre eux n'est mentionné par son nom. Aucune de leurs réalisations ou de leurs problèmes n'est mentionnée. Vous n'avez jamais d'Achab ou de Jézabel dans le livre des proverbes. Au lieu de cela, il n'y a aucune mention des prêtres. Commençons par ça. Dans le livre de la Genèse, il est mentionné que Melchizédek, qui était roi de Salem, apportait du pain et du vin. Il était le prêtre du Dieu le plus haut. Il était prêtre. C'était un prêtre et un roi, Melchizédek, ce genre de personnage mystérieux de Genèse 14, 18. Aaron, Lévitique 1h7, les fils d'Aaron, le prêtre qui mit du feu sur l'autel et disposa du bois sur le feu. Josué 21h13. Donc, les descendants d'Aaron, le prêtre. Aaron est donc le prêtre. Il n'est fait mention d'aucun prêtre dans le livre des Proverbes. 0. Il n'y a aucune mention de prêtre. Psaume 99, 6, Moïse et Aaron étaient parmi ces prêtres. Ici, Moïse est classé comme prêtre. Bien sûr, il était également classé parmi les prophètes. Samuel était parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils invoquèrent le Seigneur et il leur répondit. Élisère, le fils d'Aaron, qui succéda à Aaron, Nombre 3, 32. Et le chef des Lévites était Éliézer, fils d'Aaron, le prêtre. Abiathar, David va avoir ce copain prêtre dans 1 Samuel 23, 9. Lorsque David apprit que Saul complotait contre lui, il dit au prêtre Abiathar, apporte l'éphod. Et David va consulter le Seigneur à travers cet éphod que porte le prêtre. Et c'est un peu comme un gilet et tout. Alors Abiathar, le prêtre, David était branché là-bas. Jérémie 1.1, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres des Anatotes dans le territoire de Benjamin. Donc mention des prêtres, ceux-là sont tous nommés prêtres. Aaron, Éliézer, Hilkija, Melchizédek, ceux-là sont nommés, Abiathar, Ahimelech, ceux-là sont nommés prêtres. Ils sont nommés dans l'Ancien Testament. Aucun d'entre eux n'est nommé, ni les prêtres ne sont mentionnés dans les Proverbes. Ensuite, bien souvent, les prêtres sont simplement mentionnés en général. Exode 19, 6 est un beau verset. Il est dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Vous les Juifs le serez, vous sortez d'Égypte maintenant, je vais faire de vous un royaume de prêtres et une nation sainte. » Ce sont les paroles que vous adresserez aux Israélites. Lévitique 22, 15, les prêtres ne doivent pas profaner les offrandes sacrées que les Israélites présentent au Seigneur. Les prêtres doivent superviser le culte, les pratiques du sacrifice et les fêtes. Encore une fois, le sacrifice est une œuvre sacerdotale. Les prêtres identifiés avec cela ne sont jamais mentionnés dans les Proverbes. Ainsi, lorsque le peuple leva le camp pour traverser le Jourdain, les prêtres portant l'arche de l'Alliance les précédèrent. Ainsi, pendant qu'ils traversent le Jourdain, comme nous l'avons mentionné, les prêtres portent l'arche. Quand les prêtres montent, leurs pieds touchent le Jourdain, et le Jourdain s'assèche et se coupe d'en haut. 1 Samuel 22, 18, puis le roi a ordonné à Doeg de vous retourner et d'abattre les prêtres. Alors Doeg s'est retourné et les a abattus. C'est donc ici que Saul et sa haine pour David font essentiellement tuer les prêtres de Nob par Doeg l'Édomite. Les Édomites ne craignent pas de tuer des Juifs. Ils le font assez fréquemment dans les Écritures et Doeg tue les prêtres de Nob sur ordre de Saul. 2 Samuel 19, 11, le roi David a envoyé un message à Tsadok et Abiathar, les prêtres. Donc Tsadok et Abiathar étaient le genre de prêtres de David et il envoie des messages de cette façon. Esdras 2, 70, les prêtres et les lévites, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple se sont installés dans leur ville. Les prêtres et les lévites ne sont jamais mentionnés dans les Proverbes. Jérémie 2, 8, les prêtres n'ont pas demandé, où est l'Éternel? Ceux qui s'occupent de la justice ne me connaissent pas. Ceux qui s'occupent de la loi, les prêtres ne me connaissent pas. Les prêtres n'ont pas demandé, où est le Seigneur? Et ainsi, Jérémie les condamne. Or Jérémie est lié aux prêtres d'Anatote. Il condamne également les prêtres. Les prêtres ne sont jamais mentionnés dans le livre des Proverbes. Les Proverbes sont différents. Et les prophètes? Prophètes nommés et anonymes, prophètes nommés. Aaron était en réalité comme le prophète de Moïse. Exode 7, 1, alors l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai rendu semblable à Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Comme Dieu parle au prophète et le prophète parle au roi. Alors maintenant Moïse va être comme un Dieu. Il va parler à Aaron et Aaron parlera à Pharaon. Ainsi, Aaron est comme un prophète dans le sens où Aaron apporte le message de Moïse au roi Pharaon. Et c'était la configuration. Ainsi, Aaron sera votre prophète. Moïse a dit qu'il ne pouvait pas parler. Et Dieu dit, Aaron peut très bien parler. Nous le laisserons faire. C'est votre prophète. Myriam, Exode 15, 20. Ici vous avez une femme qui s'appelle le prophète. Alors Myriam la prophète, la sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main, et ensuite elle chante le chant de Myriam, y écrit en fait une partie de l'écriture dans Exode 15. Juge 4h04. Maintenant, Déborah, une prophète et épouse de Lapido, dirigeait Israël à l'époque. Donc ici Déborah, une autre femme, elle est prophète. Hulda était un autre prophète plus tard, à l'époque d'Isaïe. Il y avait donc des femmes prophètes qui prononçaient la parole de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament et nous vous en avons donné quelques-unes des références. 1 Samuel 10, 11, « Quand tous ceux qui l'avaient connu autrefois l'ont vu prophétiser avec les prophètes, Saul a l'Esprit de Dieu venu sur lui et il a un peu paniqué. Il se demande, qu'est-il arrivé à Saul, fils de qui? Saul est-il parmi les prophètes? Et ainsi, cela devient presque comme un proverbe, Saul est-il parmi les prophètes? Parce qu'il avait une relation avec l'Esprit, il y a diverses discussions à ce sujet. 2 Samuel 7, 2, il dit à Nathan le prophète, ici, je vis dans une maison en cèdre tandis que l'arche de Dieu est dans une tente. David dit que je veux construire une maison pour Dieu. Je veux construire un temple. Je veux construire une maison pour Dieu. Et il appelle Nathan le prophète. Il dit, eh, Nathan, est-ce que ça va? Je vais construire une maison pour Dieu. Nathan dit, eh, vas-y. Et Dieu apparaît. Nathan, je ne t'ai pas dit de dire ça. David ne doit pas me construire une maison. Et puis Dieu le transforme. C'est dans, oui, 2 Samuel 7. C'est l'alliance davidique. Dieu dit, Nathan, David ne va pas me construire une maison qui soit un temple. Je vais lui construire une maison qui est une dynastie. Je vais lui bâtir une maison qui sera une dynastie et les descendants de David régneront sur Israël pour toujours. Et c'est l'alliance davidique, la promesse davidique. Et c'est pourquoi Jésus est dans la lignée de David, régnant sur Israël pour toujours. 1 Roi 1h34, là, Tsadok le prêtre et Nathan le prophète oint Salomon roi sur Israël. Ainsi, lorsque Salomon arrivait, il y eut un conflit avec le frère d'Adonija. Tsadok le prêtre et Nathan le prophète oint Salomon. Et puis il a monté l'âne royal de David, a marché dans la ville et tout le monde dit, hourra pour le roi. Et puis Adonija, il a quelques problèmes. Quoi qu'il en soit, 1 Roi 18, 36, au moment du sacrifice, le prophète Élie s'est avancé et a prié, le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où je suis désolé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ton ordre. Ainsi, Élie est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et en réalité, Jean-Baptiste viendra avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Et à la fin du livre de l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Malachie, ils attendent qu'il y vienne avant que le grand Messie vienne. Et donc Jean-Baptiste remplira ce rôle avec Élie. Quoi qu'il en soit, il se passe beaucoup de choses avec Élia. 2 Rois 9, vous obtenez Élisée qui suit Élie. Le prophète Élisée appela un homme de la compagnie des prophètes et lui dit, et Élisée lui dit certaines choses à faire. 2 Rois 19, 2, il envoya l'administrateur du palais, Chève, un autre secrétaire et les principaux prêtres, tous vêtus de sacs, vers le prophète Isaïe, fils d'Amoz. Ainsi, Isaïe est mentionné dans les livres historiques. Esdras chapitre 5, verset 1, maintenant Haggai le prophète, Zacharie le prophète, descendant d'Édu, ont prophétisé aux Juifs de Juda et de Jérusalem. Remarquez Haggai le prophète, Zacharie le prophète, et voici Esdras dans la section historique mentionnant ces deux prophètes. Il n'y a pas de prophète dans le livre des Proverbes, 0. Jérémie 20, 2, Jérémie le prophète, eh bien, il a fait battre Jérémie le prophète et l'a mis en prison à la porte supérieure de Benjamin, au temple de l'Éternel. Ainsi, Jérémie se fait tabasser au chapitre 20. Il se plaint au chapitre 22, il dit, « Dieu, chaque fois que je prononce ta parole, je me fais tabasser. Je n'aime pas ça. » Et donc de toute façon, Jérémia, tu comprends ce qui se passe là-bas. C'est un livre intéressant, un livre très intéressant. Gary Yates a donné 30 conférences sur le livre de Jérémie. Si vous êtes intéressé, ils sont sur YouTube et également disponibles gratuitement sur biblicallearning.org. Jérémie 29, 29, Sophonie le prêtre, cependant, a lu la lettre à Jérémie le prophète. Voici donc Jérémie qualifié de prophète. Ce sont donc tous des prophètes nommés, Isaïe, Jérémie, divers prophètes et Osée. Ces prophètes sont tous nommés. Maintenant, il y a aussi des prophètes anonymes. C'est ici qu'il fait simplement référence à un prophète de manière générique. Deutéronome 13, 2 est un verset célèbre. Et si le signe ou le prodige annoncé se produit, c'est-à-dire si un prophète fait une prophétie et que cela se produit réellement et que le prophète est la citation du prophète, en fait, le mot prophète dit, suivons d'autres dieux, les dieux que vous avez inconnus et adorons-les. Alors vous savez, ce type est un faux prophète. Même s'il fait un miracle, s'il dit, aller après d'autres dieux, c'est un faux prophète. Deutéronome 13.2. 1 Samuel 9, 9, est un autre passage célèbre. Autrefois en Israël, 1 Samuel 9.9, si quelqu'un allait consulter Dieu, il disait, « Viens, allons chez le voyant, le roé, car le Nevi'im d'aujourd'hui, le prophète d'aujourd'hui était appelé voyant. » Donc, en d'autres termes, ce passage ici raconte en fait le changement de langage entre « nous avions l'habitude d'appeler ces gars-là, des voyants. » Maintenant, nous appelons un voyant ou roé, voit, il a des visions. Maintenant, nous les appelons prophètes et Nevi'im. Quoi qu'il en soit, il décrit ce passage linguistique de voyant à prophète dans 1 Samuel 9, 9. Il n'y a aucune mention de voyant ou de prophète dans le livre des Proverbes. 2 Rois 17, 13, le Seigneur a averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes et voyants, « Détournez-vous de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes décrets conformément à toute la loi à laquelle j'ai ordonné à vos ancêtres d'obéir et que je vous ai transmise. Par mes serviteurs, les prophètes. » Maintenant, c'est un slogan. Il y a un gars nommé Young qui travaillait au séminaire de Westminster. Il est décédé maintenant, mais il a écrit un livre, « Mes serviteurs, les prophètes » étaient son livre, c'est un excellent livre sur les prophètes. « Mes serviteurs, les prophètes, 2 Rois 17, 13. » Jérémie 23, 39, « Si un prophète, un prêtre ou quelqu'un d'autre prétend qu'il s'agit d'un message du Seigneur, je le punirai dans sa maison. » Ainsi, les prophètes et les prêtres sont mentionnés dans Jérémie. Jérémie 29, 19, « Car ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel. Les paroles que je leur ai adressées encore et encore par mes serviteurs, les prophètes, par mes serviteurs, les prophètes, et vous, les exilés, ne les avez pas non plus écoutées, déclare le Seigneur. Ainsi, dit Dieu, je vous ai prévenu encore et encore. J'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Que as-tu fait? Vous avez battu Jérémie. Vous l'avez mis dans une fosse septique pendant 3 jours. C'était plutôt mauvais. Zacharie 1h06, « Mais mes paroles et mes décrets que j'ai ordonnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos ancêtres ?» Voilà, des centaines d'années plus tard, mes serviteurs, les prophètes sont toujours utilisés. Il n'y a aucune mention de prophète dans le livre des Proverbes. Les Proverbes sont différents. Maintenant, en voici un autre. Numéro 7. Il n'y a pas de « Ainsi parle le Seigneur, Kolamar Yahvé ». Il n'y a pas de « Ainsi dit l'Éternel » dans les Proverbes. Il n'y a pas de rêve divin dans le livre des Proverbes, pas de rêve divin. Il n'y a pas de « Ainsi dit l'Éternel » dans le livre des Proverbes. Des rêves se sont produits dans l'Ancien Testament. Abimélec, souviens-toi qu'Abraham va dire, il vient voir Abimélec le Philistin et lui dit « Sarah est ma sœur ». Il ne voulait pas être blessé. Il dit que Sarah est ma sœur. Abimélec a alors dit, et, je vais emmener Sarah dans mon harem. C'est le roi des Philistins, Abimélec, au chapitre 12, je pense à la Genèse. Et de toute façon, et Dieu vient à Abimélec dans un rêve et lui dit, ne touche pas à cette femme. Si tu la touches, tu es un homme mort. Et alors, Abimélec sort et dit, Abraham, qu'est-ce que c'est? Vous savez, Dieu me dit quelle est ta femme. Et donc Dieu a essentiellement averti Abimélec à travers un rêve. Daniel, bien sûr, a des rêves. L'échelle de Jacob où Jacob s'incline et s'en va fuyant son frère Ésaü. Il a trompé son père Isaac et ensuite il doit fuir parce qu'Ésaü essaie de le tuer, il va le tuer. Alors, il s'enfuit jusqu'à Bethel, la maison de Dieu. Il s'allonge sur un rocher et il rêve de cette échelle qui monte au ciel ou comme vous voulez l'imaginer et des anges qui montent et descendent dessus. Et ceci est à Bethel, la maison de Dieu, le lieu Bethel. Et c'est son rêve alors qu'il a son rêve. Et puis il revient à cet endroit des années plus tard et il retourne à Bethel où il a fait ce rêve original, l'échelle de Jacob, comme nous l'appelons. Joseph, bien sûr, est connu pour ses rêves avec son frère et ses frères se prosternant devant lui. Pharaon alors au chapitre 41, verset 15 dit à Joseph, « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter, mais j'ai entendu dire de toi que tu peux entendre un songe et l'interpréter. » Ainsi, Joseph interprète alors le rêve de Pharaon. Il avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Les vaches grasses représentent les périodes d'abondance, et les vaches maigres, la famine. Par conséquent, nous en avons besoin, vous allez avoir de bonnes années d'abondance. Nous devons stocker des choses. Ainsi, quand la famine frappe et bien sûr, la famine frappe cette année d'abondance, cette année de famine, Joseph s'en rend compte, rêve et Joseph interprète les rêves. Daniel est un peu comme Joseph. Il y a tout un truc, mais une comparaison intéressante entre Joseph et Daniel. Daniel est au temps de Babylone. C'est des centaines et des centaines d'années plus tard. Et Daniel, Arioc emmena aussitôt Daniel auprès du roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui peut dire au roi ce que signifient ses rêves. » Et alors, Daniel va vers le roi et dit, « Émec, c'est ce que le roi, c'est ce que signifiait ton rêve. » Et il explique le rêve. Daniel expliquait les rêves. Joseph explique les rêves. Selon la déclaration de Moïse dans Nombre 12, 6, Dieu dit, « Écoutez mes paroles. Lorsqu'un prophète est parmi vous, moi, le Seigneur, je me révèle à lui dans des visions. Je leur parle en rêve. » Comment Dieu a-t-il parlé à ses prophètes? Il leur parle. Je me révèle à lui dans des visions. Lorsqu'une personne est éveillée et qu'elle a une vision pendant qu'elle est éveillée, ce serait Saul. Vous souvenez-vous de Saul de Tarse lorsqu'il est renversé et qu'il voit un message de Jésus? C'est une vision quand il est éveillé, puis un rêve quand il dorme. Et cela se produit dans les rêves. Dieu dit que je fais des visions et des rêves avec mon prophète, mais ce n'est pas ainsi que je travaille avec Moïse. Avec Moïse, je lui parle face à face. Et je souligne simplement que Moïse a une relation vraiment particulière avec Dieu. Nombre 12, 6, il y a un conflit avec Myriam à ce stade. Ne faisons pas ça. Deutéronome chapitre 13, 1, si un prophète ou quelqu'un qui prédit par des rêves apparaît parmi vous et annonce un signe ou un prodige, alors un prophète avec un signe ou un prodige. 1 Samuel 28, 6, il a interrogé le Seigneur, mais le Seigneur ne lui a pas répondu par des rêves ou par l'Urim. L'Urim faisait partie de la pochette thoracique. N'entrons pas là-dedans. Mais elle l'Urim et consultait l'Urim et Dieu leur donnerait les réponses. Oui, non, ou pas de réponse ou par les prophètes. Saul finit alors par se rendre chez la sorcière d'Endor. Et Saul dit à la sorcière d'Endor, nous devons combattre les Philistins demain. Que va-t-il se passer, mec? Et tout d'un coup, Samuel arrive et dit, Saul, tu vas être avec moi demain. Saul dit, oui, je vais être avec Samuel demain. C'est super. Oh, Samuel est mort. Je suppose. D'accord. Eh bien, ça ne s'est pas très bien passé pour Saul. Je ne devrais pas plaisanter comme ça. Il finit par mourir dans la période suivante dans sa bataille contre les Philistins, tout comme Jonathan, son fils. Or, Jérémie 23 est une condamnation des faux prophètes. En effet, je suis contre ceux qui prophétisent de faux rêves. Donc ici vous avez des prophéties et de faux rêves, encore une fois, des rêves qui arrivent. Il n'y a pas de rêves prophétiques dans les proverbes, pourtant on les retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Les proverbes sont différents. Ainsi parle le Seigneur, Kolamar Yahweh. Exode 7, 17, c'est ce que dit le Seigneur, à ceci vous saurez que je suis le Seigneur. Avec le bâton que j'ai en main, je frapperai l'eau du Nil et elle sera changée en sang. Par ceci, c'est ce que dit le Seigneur. Exode 10, 3, alors Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. C'est ce que dit le Seigneur. Encore une fois, rien de tout cela n'est dans les proverbes. Josué chapitre 24, 2, Josué dit à tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ainsi, Josué poursuit. 1 Samuel 2h27, l'homme de Dieu vint vers Élie et lui dit, voici ce que dit l'Éternel. 2 Samuel 7h05, va dire à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Êtes-vous celui qui me construit une maison? Nathan parle. 1 Roi 13h21, il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, au prophète de Juda. C'est ce que dit le Seigneur. Vous avez défié la parole de l'Éternel et vous n'avez pas gardé l'ordre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et ainsi, le prophète a essentiellement annoncé des violations de l'Alliance, selon lesquelles le roi faisait des erreurs et allait à l'encontre de ce que Dieu avait commandé. Ainsi, 2 Rois 1h16, il dit au roi, c'est ce que dit le Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous consultez. Vous avez envoyé des messagers pour consulter Belzébuth, le dieu d'Écron, le Philistin, Écron. Donc, les prophètes, encore une fois, vous violez la parole de Dieu. Vous poursuivez ces autres dieux. Les prophètes apparaissent et dénoncent le bluff du roi. Ésaïe 10, 24, c'est donc ce que dit le Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant dit, mon peuple qui vit à Sion, n'ayez pas peur des Assyriens. Alors, il nous prononce des paroles de réconfort pour son peuple. C'est ce que dit le Seigneur. Ésaïe 42, 5, le Créateur des cieux qui les étend. C'est ce que dit encore le Seigneur. Jérémie 2h5, c'est ce que dit le Seigneur. Quel défaut vos ancêtres m'ont-ils trouvé pour s'être éloignés de moi à ce point? Ils ont suivi des idoles sans valeur et sont devenus eux-mêmes sans valeur. Il n'y a donc pas de rêve dans les proverbes. Il n'y en a pas, ainsi dit le Seigneur dans le livre des proverbes comme il y en a partout dans l'Ancien Testament. Numéro 8, ça prend du temps, mais désolé. Il n'y a pas de théophanie, d'apparition de Dieu, d'ange ou d'ange du Seigneur, ni de miracle, que l'on retrouve fréquemment dans le reste de l'Ancien Testament, mais pas du tout dans les proverbes. Ainsi, les proverbes sont différents. Théophanie, Genèse 19, 1, ces deux anges apparaissent. Sarah les nourrit. Elle parle d'Isaac. Elle rit et les anges se lèvent et regardent vers Sodome. Ils descendent vers Sodome et les deux anges arrivent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de la ville et il les vit. Il se leva à leur rencontre et s'inclina la face contre terre. Ces deux anges, apparemment apparition des anges ou anges du Seigneur, et ils fument Sodome. Genèse 32, 30, ainsi Jacob appela le nom du lieu Peniel. Peniel signifie visage, Peniel, Dieu. C'est parce que j'ai vu Dieu face à face et pourtant ma vie a été épargnée. Alors, il lutte avec cet ange la nuit et il se rend compte alors que l'ange lui touche la hanche, l'éteint et il se rend compte qu'il lutte avec Dieu. Ainsi, il nomme cet endroit le visage de Dieu. Et ce serait une autre de ses théophanies. Moïse est le buisson ardent, l'ange du Seigneur lui apparaît. Et quand le Seigneur a vu, était-ce l'ange du Seigneur ou le Seigneur? Les deux y sont référencés. Voyant qu'il était allé voir, Dieu l'appela du buisson, Moïse, Moïse. Et Moïse a dit, me voici. Buisson ardent, Exode 3. Exode 13, 21, de jour, le Seigneur les précédait dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Et la nuit, une colonne de feu leur éclairait afin qu'ils puissent voyager de jour comme de nuit. Ainsi, une colonne de nuée, Dieu se manifeste à Israël et guide Israël à travers le désert et tout, et une colonne de feu la nuit pour les guider. Et ce sont des théophanies, des apparitions de Dieu. Il y a les Écritures, mais rien de tout cela dans les Proverbes. Deutéronome 31, 15, et le Seigneur apparut à la tente dans la colonne de nuée. Donc, il y a un tabernacle et dans la tente, la colonne de nuée est là. C'est l'apparition de Dieu. Néhémie 9, 12, le jour, tu les conduisais avec une colonne de nuée et la nuit, une colonne de feu. C'est Néhémie des milliers d'années plus tard, ou plusieurs centaines d'années plus tard, qui leur éclaire leur chemin. Psaume 99, verset 7 rapporte également qu'il leur parla depuis la colonne de nuée. Il a gardé ses statuts et ses décrets. Il les a donnés. 1 Roi 8, 11, les prêtres ne pouvaient pas accomplir. Salomon construit un temple et quand ils ont consacré le temple, les prêtres ne pouvaient pas accomplir leur service parce que la nuée pour la gloire du Seigneur remplissait le temple et les prêtres ne pouvaient même pas y entrer. 1 Roi 9.2 et 3, le Seigneur lui apparut, Salomon, une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon la première fois. Et le Seigneur lui dit, j'ai entendu la prière que tu demandes et la demande que tu as faite devant moi. Et j'ai consacré ce temple que vous avez bâti en y mettant mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Faisant référence à ce temple que Salomon avait construit. Le temple n'est jamais mentionné, l'apparition de Dieu n'est jamais mentionnée dans le livre des Proverbes. Ange, nous avons vu des anges, l'ange du Seigneur dans Exode 3, 2, la l'ange du Seigneur lui est apparu dans les flammes du feu. Maintenant, quand il parle, cela signifie que le Seigneur a parlé. Cet ange du Seigneur s'identifie souvent à Dieu lui-même. Et Moïse vit à travers le buisson qu'il était en feu, mais il ne brûlait pas. En voici un qui est plutôt amusant. Nombre 22, 23, et l'âne, donc Balaam est appelé à maudire Israël. Ainsi, Balaam monte sur son petit âne et l'âne voit alors l'ange du Seigneur debout sur la route avec une épée dégainée à la main et quitte la route dans le champ et Abraham l'a battu ou Balaam l'a battu pour l'obtenir. Retour sur la route. Ainsi, l'âne voit ce que le voyant, Balaam qui était prophète, ne voit pas. L'âne voit ce que le voyant ne peut pas voir. Ainsi, Balaam ne voit pas l'ange du Seigneur, c'est l'âne qui le voit. Et puis l'âne va dire, « Émec, pourquoi tu me bassais trois fois ?» L'âne va devenir vraiment fougueux avec Balaam. Balaam dit, « Si j'avais une épée, je te tuerais tout de suite. » Et l'ange se tient juste devant lui, il a une épée et dit, « Oh, Balaam, tu manques l'épée? C'est comme si ton âne avait raison. Il avait plus de bon sens que toi, Balaam. Tu ferais mieux de prononcer la parole de Dieu. Tu ferais mieux de ne pas courir après l'argent. Vous feriez mieux de dire la vérité et vous n'allez pas maudire Israël. Vous allez les bénir. Mais Balaam a trouvé une autre solution. C'est un peu le Judas de l'Ancien Testament. Quoi qu'il en soit, l'ange du Seigneur apparaît et il est fréquemment mentionné dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout mentionné dans le livre des Proverbes. Même dans Psaume 34, 7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Zacharie 3h01, puis il m'a montré Josué le grand prêtre debout devant l'ange du Seigneur et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Dans les Proverbes, il n'y a ni théophanie, ni ange du Seigneur. Les miracles, Sodome et Gomorre, la sortie d'Égypte et les plaies d'Égypte, le Nil devenu sanglant, tout ce qui s'est passé là-bas, la mort des premiers-nés et la célébration de la Pâque, la traversée de la mer Rouge et Exode chapitre 6 à 15. Beaucoup de miracles, la manne, chapitre 16, Dieu faisant descendre la manne du ciel et ils mangèrent le pain des anges dans le désert, la manne, l'eau du rocher dans Exode 17. Moïse frappe le rocher et l'eau sort et boum, les gens ont de l'eau au milieu du désert. Et lors de la séparation du Jourdain, Josué 4, le Jourdain s'est arrêté de descendre. Les prêtres traversent à pied sec. Ensuite, voici les murs de Jéricho, après avoir traversé le Jourdain. Ils traînent à Gilgal pendant un moment. Dieu leur donne des instructions et ensuite ils doivent se faire circoncire parce qu'ils ne l'étaient pas. Alors ils vont à Gilgal, font ce genre de choses, puis ils se promènent dans Jéricho une fois par jour et cette fois le septième jour. À propos, cette fois le tour des villes, cela vous indique la taille de la ville de Jéricho. Ce n'est pas si grand. Et alors, ils en font cette fois le tour, ils sonnent des trompettes, boum, les murs tombent. Ils font sortir Rahab, la prostituée, avec sa famille. Les murs de Jéricho, Josué 6, le soleil s'est arrêté, Josué 10. Ainsi, le soleil s'est arrêté et la lune s'est arrêtée jusqu'à ce que la nation d'Enza, elle-même alors comme ennemi, comme il est écrit dans le livre de Jachée. Le soleil s'est arrêté, il n'y a jamais eu de journée comme celle-là depuis. Dieu a écouté la voix de l'homme. Josué 10. Élie sur le mont Carmel. Ainsi, Élie a appelé tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel et leur a dit, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu et tout. Donc, les prophètes de Baal dansent et tout ça. Et Élie se moque d'eux en fait. C'est là que Babylon Bi a fait ses débuts. Et Élie se moque d'eux. Et puis tu dois crier plus fort. Peut-être qu'il n'est pas en ville ou, pour être honnête avec vous, peut-être qu'il est au téléphone et qu'il ne vous entend pas. Alors criez plus fort et rien ne se passe. Et puis Élie se lève, boum, Dieu arrive, envoie un éclair, le fume. Et de toute façon, un miracle là sur le mont Carmel, 1er roi chapitre 18. Naaman sous Élie, Dieu descend sur le mont Carmel et il lance un éclair. Naaman a la lèpre. Et Naaman arrive, il a la lèpre et il va lui dire d'aller se baigner dans le Jourdain. Et Naaman dit, mec, j'ai de meilleures rivières dans le nord. Le Jourdain n'est pas beaucoup plus grand qu'un ruisseau. Pour être honnête avec vous, dans de nombreux endroits, la largeur moyenne du Jourdain est de 30 pieds. La profondeur moyenne est de 3 pieds. Actuellement en phase d'inondation, l'inondation est importante, mais la plupart du temps, c'est ce que les Américains appelleraient un ruisseau. J'ai grandi sur la rivière Niagara et cela n'a rien à voir avec la rivière Niagara. Mais de toute façon, Naaman, alors de toute façon, vous vous souvenez de l'histoire de sa lèpre qui est guérie. La vie d'Ézéchia est prolongée de plusieurs années. Et ce faisant, le cadran de l'horloge recule et une ombre recule sur l'horloge. La vie d'Ézéchia est épargnée. Sennachérib va attaquer Jérusalem et il arrive et harcèle dans 2 rois 19 et aussi dans le livre d'Isaïe. Il arrive et Sennachérib dit, vous n'êtes rien. J'ai époustouflé tous ces autres dieux. Jérusalem n'est pas différente. Et tout d'un coup, Dieu s'en prend à 180 000 soldats. L'ange du Seigneur disparaît et Sennachérib rentre chez lui à Ninive et ses propres enfants le tuent. Mauvaise période pour lui. Daniel et la fosse au lion, encore des miracles. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Je veux dire, miracle après miracle. Il n'y a aucun miracle dans les Proverbes. Pas de théophanie, pas de rêve, pas d'ange, pas de miracle, zéro dans le livre des Proverbes. Les Proverbes sont différents. Maintenant, section 9, il n'y a pas de fête dans les proverbes. Il n'y a pas de fête en Israël, pas de pèlerinage, pas de Shabbat. Il ne mentionne pas le sabbat. Il ne mentionne pas l'année sabbatique, l'année du jubilé. Il ne mentionne pas qu'il n'y a pas de réunion de congrégation ni de grande procession de jeûnes qui sont disséminées dans tout l'Ancien Testament et que l'on ne trouve pas dans le livre des Proverbes. Au printemps, les Juifs célèbrent la Pâque puis la fête des couronnes, Shavuot, que l'on appelle Pentecôte, Pentecôte, 50 jours. À l'automne, c'est au printemps. À l'automne, ils célèbrent la fête des trompettes, la fête de Sukkot, la fête des cabanes ou tabernacles, puis le Yom Kippour le plus sacré, le jour des expiations. Et ce sont à l'automne. Ainsi, au printemps, lorsque vous récoltez votre blé et votre orge, ils organisent ces fêtes. À l'automne, lorsque vous récoltez vos fruits comme les olives, les raisins et des choses comme ça, les grenades, vous organisez ces fêtes à l'automne. Sabbat, Exode 20, 8, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Lévitique 23, 3, il y a 6 jours pendant lesquels vous pouvez faire votre travail. Le 7e jour est un jour de repos sabbatique, un jour d'assemblée sacrée. Vous ne devez effectuer aucun travail où que vous habitiez. C'est un sabbat pour le Seigneur. Nombre 15, 32, alors que les Israélites étaient dans le désert, un homme fut trouvé en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Sabbat, sabbat, sabbat. 2 Rois 4h23, pourquoi aller vers lui aujourd'hui? Il a demandé, n'est-ce pas la nouvelle lune ou le sabbat? Jérémie 17, 20, c'est ce que dit le Seigneur, veillez à ne pas porter de fardeau le jour du sabbat ni à l'introduire dans les portes de Jérusalem. Osée 2h11, j'arrêterai toutes leurs célébrations, ces fêtes annuelles, ces nouvelles lunes et ces sabbats, toutes ces fêtes fixées. Néhémie après l'exil, Néhémie 10h31, puis les peuples voisins apportent des marchandises ou du grain ou vendent un jour de sabbat. Nous ne les achèterons pas le jour du sabbat ni aucun jour saint. Et ainsi, Néhémie entre dans sabbat, 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 mentionné à toutes les périodes. Pâques, Pâques est mentionné au chapitre 12 de l'Exode. C'est établi, dit Dieu, les premiers-nés vont mourir à moins que vous ne mettiez le sang sur les montants des portes et tout et que vous ne mangiez cet agneau et que vous ne mangiez les herbes amères et la matza, le pain sans levain. Et ainsi, la Pâque est établie dans Exode 12, et c'est bien sur ce qui se passe lors de la Pâque du Seigneur. Lévitique 23, 5 mentionne que la Pâque commence au crépuscule le 14e jour du premier mois. Numéro 9, nous ne devons rien laisser jusqu'au matin ni briser aucun de ses os. Ils doivent célébrer la Pâque, ils doivent suivre les règlements. Deutéronome 16, 2 mentionne à nouveau le sacrifice de la Pâque. Josué 5, 10, ils sont dans les plaines de Guigal et ils célèbrent, je pense que c'était la 3e Pâque après avoir traversé le Jourdain avant d'attaquer Jéricho, ils sont montés à Guigal. Ils se sont circoncis, ils ont fait arrêter la Pâque et la manne parce qu'ils étaient dans le pays et qu'ils n'avaient pas besoin de la manne. Quoi qu'il en soit, le roi Josia à l'époque, 2 Rois 23, 21, dit le roi Josia, célébrez la Pâque au Seigneur. Ézéchia dans 2 Chroniques 30, 1, dit Ézéchia, célébrez la Pâque en l'honneur du Seigneur. Et Esdras, après l'exil, dit-il, les Lévites égorgèrent l'agneau pascal pour tous les exilés, leurs parents et les prêtres pour eux-mêmes. Vous pouvez même voir le sacrifice de la Pâque. Même jusqu'à ce jour, si vous montez le Samaritain sur le mont Garizim là, juste au sud de la ville de Sichem, il y a un mont Garizim là-bas et les Samaritains, il y a, je ne sais pas, 400 ou 500 Samaritains. Là-haut jusqu'à ce jour. Et ils y célèbrent encore la Pâque. Vous pouvez y aller et voir où ils ont abattu l'agneau pascal et mangé l'agneau pascal jusqu'à ce jour. Ainsi, la Pâque n'est jamais mentionnée dans le livre des Proverbes. Les proverbes sont différents. Ils ne mentionnent pas le sabbat, ni les fêtes, ni les pèlerinages, la montée à Jérusalem, rien de tout cela n'est mentionné. Numéro 10, l'alliance d'Abraham pour le pays, la semence, afin que sa semence se multiplie comme les étoiles du ciel, comme le sable du bord de la mer. L'alliance avec Abraham, la terre promise, la semence serait multipliée et serait une bénédiction pour toutes les nations. Non mentionné, pas mentionné du tout dans les proverbes. L'alliance sinaïtique est l'endroit où Dieu énonce les lois, 10 commandements. Il y aura un lien intéressant entre l'alliance sinaïtique et les proverbes. Et cela sera examiné dans le cadre de l'étude intertextuelle des proverbes, du Deutéronome et d'autres passages. L'alliance davidique n'est pas mentionnée dans les proverbes. La nouvelle alliance n'est pas du tout mentionnée. L'accent est mis sur la terre dans une grande partie de l'Ancien Testament, sur leur venue, divisant la terre, prenant la terre, donnant certaines villes aux Lévites, aucune des promesses de terre et tout ça. Le pays a pratiquement disparu du livre des Proverbes. Il fait effectivement référence à la terre, mais sa signification est différente de celle que l'on trouve dans ce genre de promesses foncières concrètes qui sont faites. Dans l'Alliance abrahamique, Genèse 12, 7, le Seigneur est apparu à Abraham et a dit à ta progéniture, « Je donnerai ce pays ». C'est pourquoi il y bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Dans une théophanie, dans Genèse 22, 17, « Je te bénirai sûrement et rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable du bord de la mer » Genèse 17, 5, « Tu ne t'appelais plus Abraham. Ton nom sera Abraham car je t'ai fait le père du père de nombreuses nations. » Genèse 17, 11, « Vous devez subir la circoncision. Ce sera un signe de l'alliance. Entre vous et moi. » Ainsi, la circoncision devient un signe d'alliance important pour le peuple juif. La terre promise, encore une fois, n'est pas mentionnée dans le livre des Proverbes. Le territoire y est utilisé d'une manière différente. L'alliance sinaïtique est essentiellement constituée des 10 commandements et des diverses lois, 615 ou autres. Schipiper a fait un travail merveilleux sur l'herméneutique de la Torah, montrant Proverbes 2 et Deutéronome et la composition des Proverbes 1 à 9. C'est vraiment du bon travail. Il fait ce truc intertextuel avec certains des commandements donnés dans la loi. C'est un autre sujet. Nous essayons de montrer maintenant que les proverbes sont différents. Plus tard, nous montrerons comment cela s'intègre, mais à ce stade, nous essayons de dire que c'est différent. Nous devons maintenir cela parce que sinon, il me semble que les gens prennent cette intertextualité et la mélangent aux proverbes et rendent les proverbes plats là où les proverbes ont toutes ces montagnes et ces vallées. Ils essaient de l'aplatir et de dire, eh bien, c'est exactement la même chose que la Torah. Non, non, c'est différent. Et c'est ce que j'essaie de dire. C'est différent et il faut le lire différemment parce que c'est différent. Il faut le lire différemment. Maintenant, oui, il y a des couches et différentes connexions, échos et diverses choses et comment cela se connecte avec d'autres parties de l'écriture. Mais tout d'abord, nous devons dire qu'un proverbe est différent et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Dans l'Alliance Davidique, le Seigneur vient à David et le Seigneur vous déclare, 2 Samuel 7, 11 et suivant, le Seigneur lui-même établira une maison pour vous. Maison signifiant dynastie. David veut construire à Dieu une maison-temple. Dieu dit, non, je vais vous construire une dynastie de maisons. Lorsque vos jours seront terminés et que vous reposerez auprès de vos ancêtres, j'élèverai votre descendance pour vous succéder dans votre chair et votre sang. Et j'établirai son royaume. Et c'est lui qui construira une maison à mon nom. Et j'établirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton royaume demeureront à jamais devant moi. Votre trône sera établi pour toujours. Les descendants de David siégeraient sur le trône en tant que roi. De nombreux proverbes de type roi se trouvent dans les proverbes, mais aucun d'entre eux ne fait référence à cette alliance davidique. Ainsi, par exemple, les proverbes disent ceci, Proverbe 22, 11, « Celui qui aime un cœur pur et parle avec grâce aura le roi pour ami. » Proverbe 24, 21, « Craignez le Seigneur et le roi. Mon fils, ne te joins pas aux fonctionnaires rebelles. » Alors, voyez-vous à quel point cela est différent de l'alliance davidique? Il y a là un certain lien, mais ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que l'on voit d'abord les différences et les différences sont substantielles avant d'établir les liens. Proverbe 16, 14, « La colère du roi est un messager de mort, mais le sage l'apaisera. » La nouvelle alliance, Jérémie 31, 33 à 34, est l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Passé ce délai, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus à leurs prochains et ne se diront plus, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. Rien de tout cela n'est dans le livre des Proverbes. Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière et j'avance très loin car nous allons faire une toute autre présentation sur l'intertextualité. Mais vous pouvez voir qu'avec la loi sinaïtique, il y a quelques parallèles, et les proverbes parlent de la vraie vie. Il y aura donc des choses comme celle-ci, Proverbe 23, 10, un peu similaire à Proverbe 22, 28, n'enlevez pas l'ancienne borne et n'empiétez pas sur le champ des orphelins. N'enlevez pas l'ancienne borne frontière, c'est-à-dire le marqueur. Deutéronome 27, 17 ou Deutéronome 19, 14 dit, maudit soit quiconque déplace la borne de son prochain. Alors tout le monde dit, Amen. Ainsi, vous pouvez voir qu'il existe des parallèles entre ces deux proverbes et ce qui a été dit dans le Deutéronome. Nous devrons en parler plus tard. Maintenant, le prochain est le numéro 11 et c'est énorme. Dans une grande partie de l'Ancien Testament, Dieu condamne l'idolâtrie. Israël a une propension, peut-être que tous les peuples ont une propension à l'idolâtrie. L'idolâtrie est omniprésente dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas mentionné dans les Proverbes. Quand tous les vices sont évoqués dans le livre des Proverbes, l'idolâtrie n'est pas mentionnée. Les Proverbes sont différents. Le problème de l'idolâtrie est maintenant abordé. J.K. Beale a un livre, Nous devenons ce que nous adorons, une théologie biblique de l'idolâtrie. C'est un très bon livre. Beale fait un travail merveilleux. J.K. Beale, Nous devenons ce que nous adorons, une théologie biblique de l'idolâtrie. Les noms de Dieu que vous connaissez probablement, ces dieux païens qu'Israël adorait, vous les connaissez. Certains des plus grands sont Baal, Moloch et Chemosh. Vous les avez adorés en sacrifiant vos enfants à Moloch et Chemosh. Ashra, l'épaule d'Ashra et tout, sont les dieux étrangers bien connus dans tout l'Ancien Testament. Nous avons parlé de 1 roi 18, où les prophètes de Baal dansent pour essayer d'amener Baal à tirer des éclairs. Ili le fait, ou Dieu le fait à travers Ili dans 1 roi 18. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Mais les gens ne disaient rien. Moloch, Lévitique chapitre 20 versets 1 et 2, le Seigneur dit à Moïse, dit aux Israélites, tout Israélite ou étranger résidant en Israël qui sacrifie l'un de ses enfants à Moloch doit être mis à mort. C'est intéressant, la mort d'enfants sacrifiés. Pourquoi les cultures attaquent-elles toujours les enfants, les nourrissons et les bébés? Dieu semble condamner ce grand moment. Genèse chapitre 3 versets 4 et 5, vous ne mourrez certainement pas, dit Satan. Le serpent dit à la femme, car Dieu sait que lorsque tu en mangeras, tes yeux seront ouverts et tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 31, 19, alors que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel a volé les dieux de la maison de leur père. Alors Laban rattrape Jacob et lui dit, Jacob, tu as volé mon bétail. Tu as volé mes affaires. Pourquoi as-tu volé les dieux de ma famille? Et il dit, eh, je n'ai pas pris les dieux de ta famille. Va fouiller mon camp, tu sais, va chercher. Alors, il entre dans la tente de Rachel. Rachel est assise dessus et dit, « Papa, je ne peux pas me lever, la coutume des femmes est sur moi. Je ne peux pas me lever. » Elle est assise sur les dieux de la maison. « D'accord. Je suis désolé. » Quoi qu'il en soit, dans Genèse 31, les dieux domestiques, même en Israël. Genèse 35, 4, Jacob retourne à Bethel après avoir fui et fait monter cette échelle au ciel. Alors, ils donnèrent à Jacob tous leurs dieux étrangers et ils eurent les anneaux aux oreilles et Jacob les enterra aux chaînes de Sichem. Et il retourne à Bethel et il recommence avec Dieu. Genèse 32, 4 et 6. Dans Exode 19 et 20. Alors tout le peuple ôta ses boucles d'oreilles et les apporta à Aaron. Il prit ce qu'il lui tendait et en fit une idole qu'il fondit en forme de veau, le façonnant avec un outil. Alors ils dirent, puis ils dirent, ce sont les dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ce veau d'or est le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Moïse s'approcha du camp, il vit le veau et les danses, et sa colère s'enflamma. Et il jeta les tablettes de sa main, les brisant, symbolisant la rupture de l'alliance au pied de la montagne. Et il prit le veau que le peuple avait préparé et le brûla au feu, le broya et le fit boire. Quoi qu'il en soit, Deutéronome chapitre 4 versets 15 à 19. Par conséquent, prenez garde à vous-même, Deutéronome 4, surveillez-vous très attentivement afin de ne pas vous corrompre et de ne pas vous faire une idole ou une image de n'importe quelle forme, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'un homme. Femme ou comme n'importe quel animal sur terre ou oiseau. Et il descend et liste tout ça. Deutéronome 13, dit le prophète, poursuivons les dieux étrangers. Le prophète est alors condamné. Aux oreilles et Jacob les enterra aux chaînes de Sichem. Et il retourne à Bethel et il recommence avec Dieu. Genèse 32, 4 et 6. Gidéon reçoit son appel. Et que fait-il? Il doit sortir, démonter le poteau d'Ashra et détruire l'autel de Baal. Donc, en fait, Gédéon reçoit un nom distinct appelé Jérubbaal, laissons Baal parler pour lui-même. Mais Gédéon renverse l'autel de Baal et il s'appelle Jérubbaal. C'est à partir de là que le roi Salomon parle de l'idolâtrie et d'autres dieux. Roi Salomon 11, 4 et 5, à mesure que le roi Salomon vieillissait, ses femmes tournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur n'était pas entièrement dévoué au Seigneur son Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Il suivit Ashéra, la déesse des Sidoniens, Moloch, le dieu des Ammonites, etc., etc. Jéroboam, alors le royaume se divise. Dieu dit, Salomon, tu as fait une erreur en adorant ces autres dieux. Le royaume va se diviser. Roboam n'obtient que Juda. Jéroboam obtient Éphraïm au nord. Jéroboam, au nord, dit que je ne veux pas que tout mon peuple descende à nouveau à Jérusalem, monte à Jérusalem pour adorer leur Yahweh, Jéhovah, le Dieu d'Israël. Donc, je dois faire ce que je construis. Il construit deux veaux d'or. Il en installe un à Bethel au sud et à Dan au nord. Ainsi, les gens peuvent tous aller maintenant chez lui avec le veau d'or à Dan et à Bethel. En fait, ils ont trouvé à Dan, ils ont trouvé l'endroit où ce veau d'or était dressé au pied du mont Hermon, à Dan. Ils l'ont trouvé maintenant. Ils n'ont pas trouvé le veau d'or, mais ils ont trouvé, et en passant, le fils de Jim Monson, John Monson, a trouvé un veau d'or, je pense que c'était du bronze ou quelque chose comme ça à Ashkelon. Il y a donc un précédent pour tout cela. C'était donc dans un roi 12, 28, 31, Jéroboam posant les veaux d'or et ensuite Dieu le réprimandant par l'intermédiaire du prophète, Mec, je suis sorti de Juda. Les psaumes en parlent. Psaume 24, 4, celui qui a les mains propres et le cœur pur, qui ne se confie pas en une idole et ne jure pas par un faux dieu. Psaume 97, 7, tous ceux qui adorent des images sont honteux. Ceux qui se vantent des idoles l'adorent, tous vos dieux. Psaume 135, 15, les idoles des nations sont en argent et en or fabriquées par des mains humaines. Ésaïe 2, 8, leur pays est plein d'idoles. Ils s'inclinent devant le travail de leurs mains. C'est la différence. Dieu n'a pas été créé par des mains humaines avec leurs doigts. Jérémie 2, 11, une nation a-t-elle déjà changé ses dieux, et pourtant ce ne sont pas des dieux du tout. Mais mon peuple a échangé son dieu glorieux contre des idoles sans valeur. Jérémie fait quelques images ici au chapitre 10, verset 5, les idoles, elles sont comme des épouvantails dans un champ de concombres. Leurs idoles ne peuvent pas parler. Il faut les porter car ils ne peuvent pas marcher. Leurs idoles ne peuvent ni parler ni marcher. Ils sont comme un épouvantail dans un champ. Ne les craignez pas car ils ne peuvent vous nuire ni vous faire du bien. Osée 1 à 3, Osée doit épouser Gomée. Il doit aimer Gomée et ensuite Gomée le trompe. Et Dieu dit que c'est ainsi entre moi et Israël. Je veux que tu sois fidèle à moi et à toi après tous ces autres dieux. Et puis il dit à Osée d'épouser à nouveau Gomée et de la ramener. Et il dit, c'est comme Dieu et vous qui n'êtes pas mon peuple, vous deviendrez mon peuple. Et tu n'es pas aimé qui sera aimé. Et le grand pardon de Dieu est tout ce qui y est décrit. Même un Jean, désolé d'introduire cela, mais d'abord Jean 5, 21, quand vous avez terminé, d'abord Jean, à la fin de la lettre, il laisse tomber cela de nulle part. Ce n'est pas sorti de nulle part, mais c'est un vers vraiment intéressant. À la fin du livre de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, Jean laisse tomber ce genre de phrase sur lui et dit, « Chers enfants, gardez-vous des idoles. » Et ainsi, l'idolâtrie, c'est partout dans les Écritures. C'est zéro dans les Proverbes. Ainsi, les Proverbes sont différents. Pour en arriver à la fin ici, au numéro 12, il n'y a pas d'histoire dans les Proverbes. Il n'y a pas d'histoire. Or, l'histoire est une narration, excusez-moi, d'événements. Il y a généralement une scène puis un personnage. Et puis ce personnage fait A, B, C, D, E, F, G, puis le personnage meurt. Et le personnage, pendant qu'il fait A, B, C, D, il a une relation avec Dieu, bonne, mauvaise, moche. Ce qui se produit? Les prophètes viennent, les prêtres viennent, les lois, et puis boum, ça finit. Donc c'est linéaire. C'est linéaire et c'est séquentiel. C'est linéaire et c'est séquentiel. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les proverbes. Ces événements ne se produisent donc pas dans les proverbes. Il n'y a pas d'histoire du salut. Les grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, Moïse les fit sortir d'Égypte. Il n'y a aucune histoire de salut répertoriée dans les proverbes. Il n'y a pas de conquête du pays comme sous Josué. Il n'y a pas d'histoire de grands juges. Il n'y a même aucune mention des grands juges d'Israël, de Gédéon, de Déborah et Barak, d'Éhud, de Samson, ni même de Samuel comme le dernier des grands juges. Il n'y a pas d'histoire de personnes spéciales comme Ruth ou Esther. Il n'y a pas d'histoire de rois comme Saul, David, Salomon, Jéroboam, Achab et Jézabel. Les histoires des rois Ézéchia et Josia. Il n'y a aucune mention de ces personnes. histoire des prophètes d'Osée, du mariage de Gomé, de Jérémie et de tous les problèmes qu'il a eus. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Jonas et la baleine et Ninive. Aucune mention d'aucune de ces choses. Il n'y a pas de motif Exode. Il n'y a pas de motif Exode. Le motif de l'Exode se retrouve tout au long de l'Écriture. Même dans le cas de Matthieu dans le Nouveau Testament, cela se répercute également là-bas. Et dans le livre de, croyez-le ou non, dans l'Apocalypse, même l'Apocalypse fait écho à une grande partie du livre de l'Apocalypse fait écho à l'Exode. Il n'y a pas de guerre. Combien de guerres avez-vous eues dans l'Ancien Testament? Combattre les Philistins, les Moabites, les Édomites, Babylone, la Syrie et toutes ces choses. Rien de tout cela n'est mentionné dans les Proverbes. Pas de guerre, pas de conflit spécifique, pas d'exil où le royaume du Nord s'emporte et se disperse en Syrie. Ninive est aujourd'hui Mossoul. Et c'est intéressant, Mossoul aujourd'hui, dans le nord de l'Irak, où l'Amérique a combattu, Mossoul est en réalité Ninive. Vous pouvez réellement accéder à Google Maps et descendre. Vous pouvez voir le témoignage sur le site de Ninive, dans la ville de Mossoul, lorsque l'État islamique l'attaquait tout récemment, il y a quelques années. Babylone, encore une fois, pas d'exil à Babylone, pas de destruction du temple. Il n'y a pas de retour après l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ainsi, aucun de ces événements historiques ne se produit, ils ne se produisent qu'une seule fois dans l'histoire et l'histoire continue. Les proverbes sont différents. Les proverbes sont différents. Le proverbe revient encore et encore. Alors maintenant 3, 13, et ce sera notre dernier. Les récits historiques se concentrent sur des paragraphes et des paragraphes dans ces péricopes, histoire. Les psaumes se présentent également sous la forme d'un psaume, d'un poème, et le poème est ensuite généralement divisé en strophes. Donc, vous avez 3, 4 ou 5 vers qui vont ensemble et qui sont une sorte de paragraphe poétique ou de strophe. Et donc, vous avez alors ces unités de poésie hébraïque à deux points qui se combinent en une strophe et la strophe en un poème. Dans les proverbes, vous les avez, ils sont des phrases. Chaque phrase est en quelque sorte autonome. Et donc, tout ce que je dis, c'est que les proverbes sont différents. Alors permettez-moi de résumer et nous y mettrons un terme. Les proverbes sont différents. Les proverbes sont différents. Et donc, parce qu'il s'agit d'un genre littéraire différent, il doit être lu différemment. Et quand nous y arrivons, nos attentes sont différentes. Lorsque nous y arrivons, nos attentes sont différentes et nous avons besoin d'une herméneutique différente sur la manière d'interpréter un proverbe différemment d'un récit historique, d'un oracle de prophète ou d'un psaume. Les proverbes sont différents car ils n'ont pas de noms personnels autres que ceux qui figurent réellement dans les titres du livre. Il n'y a pas de nom personnel. Il n'y a pas de nom de tribu, de groupe ou de nation mentionné dans les Écritures. Il n'y a rien de tout cela, sauf Juda et Israël, et ce sont les titres. Il n'y a ni ville, ni lieu, ni frontière tribale, ni fleuve du Jourdain, ni frontière de Dan à Beersheva, ou de l'Euphrate à Wadi El Arish ou au fleuve d'Égypte. Il n'y a rien de tout cela, zéro. Il n'y a pas d'appel d'individus particuliers comme Moïse ou Gédéon. Rien de tout cela n'est mentionné. Le temple, le tabernacle, la maison du Seigneur, jamais mentionné dans le livre, même si la maison du Seigneur, le temple fut la plus grande réalisation de Salomon, jamais mentionné dans les proverbes. Aucune institution comme les prêtres et les prophètes n'a jamais été mentionnée dans les proverbes. Il n'y a pas, ainsi dit le Seigneur, non, ainsi dit le Seigneur, de rêve, rien de tout cela. Non, ainsi dit le Seigneur, cela apparaît partout dans les prophètes, cela ne se trouve pas là dans les proverbes. Non, pas de rêve. Pas de théophanie, d'ange, de miracle ou d'ange du Seigneur. Pas de théophanie où Dieu apparaît, pas de miracle et pas de miracle. Est-ce que tu comprends? Il s'agit en quelque sorte d'une chose ponctuelle. Les proverbes reviennent encore et encore. Cela ne convient pas. Et donc, pas de miracle dans le livre des proverbes, pas de fête et de pèlerinage, pas de sabbat ni même de référence au sabbat. Il ne fait jamais référence aux fêtes, aux pèlerinages, aux processions ou à tout ce genre de choses dans le livre des proverbes, ni à aucune des alliances. Maintenant, il y aura un certain lien entre l'alliance sinaïtique et certaines lois et certains de ces proverbes. D'accord. Et nous verrons cela plus tard. Mais l'alliance abrahamique, la terre, l'importance de la terre promise d'Israël, n'est pas mentionné dans le livre. Je veux dire, c'est plutôt incroyable. Et aucune mention d'idolâtrie. L'idolâtrie est présente partout dans l'Ancien Testament et, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament également. Et c'est juste que ce n'est pas du tout mentionné. L'idolâtrie, l'un des vices majeurs d'Israël, n'est jamais évoqué. Très intéressant. Histoire. De l'histoire, pas d'histoire. Nous sommes l'histoire, l'histoire rédemptrice qui traverse ces grands événements où Dieu s'est révélé dans l'histoire. Dieu est un Dieu d'action, un Dieu d'histoire et se révèle dans l'histoire. Pas du tout mentionné dans le livre des Proverbes. Et puis enfin, les récits historiques sont regroupés sous forme de paragraphes en histoire. Ou dans le cas des psaumes, le bicolon entre dans une strophe, ses sections, et dans un poème. Un proverbe est plus phrasonnel, une phrase, courte, sucrée, salée, courte, sucrée et salée. Et donc, les proverbes sont différents. Et ça, je sais que ça fait longtemps. Merci d'être resté avec moi. Mais je pense qu'il est crucial de souligner aujourd'hui que les proverbes sont différents du reste de l'Ancien Testament ou du Tanakh. Par conséquent, lorsque vous abordez les proverbes, vous devez développer vos attentes quant à ce que signifie un proverbe et comment il signifie, quel type de forme il utilise, comment vous allez l'interpréter et comment vous allez l'interpréter. À la lumière du reste de l'Ancien Testament. Mais il faut en quelque sorte le segmenter de cette façon. C'est comme lire des petites annonces ou une notice nécrologique dans le journal. Quand vous venez aux petites annonces, elles sont courtes et ont une certaine forme. Vous ne vous attendez pas à un article en première page avec des petites annonces. Il en va de même pour les proverbes. Les proverbes sont différents et ils doivent être lus différemment, en respectant le genre, sans les écraser et en disant « Oh, c'est comme le reste de l'Ancien Testament ». Non, ce n'est pas. Les proverbes sont différents. Merci de votre attention. Et nous vous retrouverons la prochaine fois.